soir et bravo pour avoir bravé les éléments pour venir. Jusqu'à présent, pour les habitués de ce cycle, on a parcouru la question sociale à travers les âges et on a parlé dans la période récente des organisations syndicales qui sont historiquement les formes un peu porteuses de la question sociale, même si ce ne sont pas les seules. On va en rencontrer d'ailleurs une autre composante aujourd'hui qui a historiquement porté la question sociale à sa façon. Mais lorsqu'on a décliné un peu la trajectoire des organisations syndicales, on s'est arrêté jusque-là à une des traditions productrices de syndicalisme, qui est la tradition laïque. On peut rajouter laïque et socialiste, d'ailleurs, parce qu'elle remonte au XIXe siècle. Elle est le produit de l'agrégation de ces syndicats de métiers qui sont apparus à peu près un peu avant les années 1840, et qui progressivement se constituent à travers les épisodes un peu douloureux de ce siècle, la répression qui a suivi 1848, plus tard celle de la Commune, disons, un travail d'agrégation progressive de ces formes de représentation et croisé avec l'expansion dans la société des idées socialistes sous toutes leurs formes, allant de l'anarcho-syndicalisme au réformisme ou au positivisme. Et disons, c'est ce croisement entre des représentations sociales, une certaine idée de l'émancipation, qui est le propre du XIXe siècle, et ces formes d'organisation s'agrégeant progressivement autour d'identités de métier, puis d'industrie, qui va donner cet acteur central qui a été très longtemps la CGT dans le syndicalisme. Et on a vu la dernière fois comment, à partir de 1945, a commencé une espèce de désagrégation du grand corps de la CGT, qui avait déjà connu des scissions avant-guerre, mais là, on a vu s'enraciner des scissions et un premier processus de fragmentation syndicale par épisodes successifs. Donc ce soir, on va voir l'autre tradition qui, en France comme ailleurs en Europe, en tout cas en Europe continentale, a produit de la forme syndicale. Et cette autre tradition, elle emprunte au catholicisme social. Donc on va voir comment est né en France, et un peu, on va en parler d'ailleurs un peu en Europe aussi, ce syndicalisme chrétien, qu'on appelle chrétien, même si le cœur est plutôt catholique, et comment il s'installe dans l'histoire sociale française, avec retard par rapport à d'autres pays, et quelle va être sa trajectoire qui va produire, dans les années 60, par une transformation interne, la CFDT, qui est aujourd'hui une des grandes organisations syndicales françaises. Alors, je vais organiser mon propos en quatre temps. Le premier, c'est à la naissance du syndicalisme chrétien. Comment cette forme émerge? Pourquoi ce mouvement transversal à l'Europe s'affirme et va devenir une force sociale? Expliquer un petit peu le contexte français, toujours assez particulier, qui renvoie d'ailleurs à des caractéristiques du champ politique aussi. Dans un deuxième temps, on partira de la naissance de la CFTC, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui prend forme en 1919, qui a une première tranche de vie assez compliquée et très minoritaire entre 1919 et la Seconde Guerre mondiale. Troisième temps, ce mouvement qui démarre en 1945 et qu'on peut appeler vers la CFDT, c'est-à-dire un mouvement de transformation interne dont on va rendre compte. Et puis après, dans une dernière partie, qui sera peut-être la plus longue, on verra rapidement la trajectoire de la CFDT, qui a une trajectoire elle aussi assez singulière dans le champ syndical. Bon, puisqu'on reste dans l'histoire, on va essayer de terminer ce parcours vers les années 2000, disons, pas tomber dans une actualité immédiate, encore qu'évidemment, ce que je dirais a une certaine incidence sur la compréhension du moment présent pour la CFDT. Donc, je commence un peu par rendre compte un peu de ce qu'on pourrait appeler une matrice historique de production de syndicalisme qui est un mouvement en réalité transversal à l'Europe. Et pourquoi est-ce que c'est un mouvement d'emblée international? C'est parce qu'il a sa source dans une organisation internationale qui est le Vatican. À cette époque-là, à part le mouvement socialiste, encore le Vatican est quand même la plus ancienne des organisations internationales. Et donc, c'est la papauté qui est à l'initiative. Alors, il faut essayer de rendre compte pourquoi le Vatican est directement à l'origine de ce mouvement. L'élaboration, la première pierre qui va poser l'édifice du syndicalisme chrétien, c'est une encyclique, comme souvent, elle est parue en 1891. Elle émane d'un pape, Léon XIII, qui est un pape qui a tout à fait marqué son époque et qui est un pape qui a signé un peu une mise à jour de modernité, disons, du catholicisme, et une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, qui veut dire en latin, peut-être des latinistes, des choses nouvelles. Alors c'est quoi les choses nouvelles? Ben, pour l'Église, à l'époque, les choses nouvelles, c'est la question sociale, justement. Parce que si l'Église commence à se préoccuper sérieusement de cette question, c'est parce qu'elle est dans une posture assez difficile à la fin du XIXe siècle. D'abord, elle s'est enfermée pendant une trentaine d'années, enfin, c'est bien plus ancien que ça, mais en tout cas, le pape qui a le plus signifié ça, c'est le pape Pie IX, au milieu du XIXe siècle, qui a enfermé l'Église catholique dans un esprit réactionnaire au sens premier du terme, c'est-à-dire un sens de remontée de l'histoire, tournée vers le passé, et c'est vraiment le pape qui, le dernier, a exalté avec vigueur l'alliance millénaire du trône et de l'autel, etc. Pie IX avait été l'auteur du fameux Syllabus de 1864, qui est une grande encyclique qui est restée dans l'histoire, qui dénonçait les fausses valeurs de la modernité, la démocratie, etc., héritée de l'horrible période de la Révolution française, qui était vraiment la figure de l'antéchrist hein, pour le pape à cette époque-là. Le Syllabus énumère 80 propositions qui sont condamnées toutes par l'Église, qui touchent aux idées modernes de l'époque, parmi lesquelles le libéralisme, le socialisme, le rationalisme, etc. Donc c'est vraiment un plaidoyer tout à fait réactionnaire et qui est hostile, évidemment, à la République et à la démocratie. La question sociale, pour elle, se résume à la bienfaisance catholique et au courant philanthropique qu'on a évoqué largement quand on a parlé de cette période en France. Alors, le contrôle social qu'elle exerce sur les populations est toutefois aux prises avec deux phénomènes assez déstabilisants pour elle. Le premier, c'est l'urbanisation, c'est-à-dire qui est moins sensible en France, d'ailleurs, que dans le reste de l'Europe. Hein, j'ai évoqué, on connaît, hein, cette France rurale qui va rester très longtemps ancrée sur ses nombreuses communes, hein, à l'inverse d'autres pays qui ont connu la révolution industrielle plus tôt, et en tout cas les concentrations urbaines plutôt qu'en France. Alors, il existe un maillage paroissial significatif dans les zones urbaines, mais malgré tout, l'Église était mieux outillée pour un maillage paroissial rural, hein, à travers lequel le contrôle des populations, le contrôle entre guillemets, hein, dans un sens plus sociologique, pas dans un sens policier, disons le contrôle social, hein, de la population se faisait plus facilement dans les territoires éclatés de la ruralité plutôt que dans les grandes villes. On sait bien que les villes sont plus distant le message du prêtre, la vie urbaine, éloigne de l'Église. Le second phénomène important qui déstabilise un peu l'Église catholique à cette époque, c'est l'émergence de la classe ouvrière comme réalité sociologique, échappant bien souvent dans ses lieux de vie et dans ses modes de vie à la présence sacerdotale. Mais en même temps, la classe ouvrière devient porteuse aussi d'une réalité politique. J'ai évoqué tout à l'heure cette montée du socialisme, elle est tout à fait contemporaine de l'émergence de la classe ouvrière dans les différents pays d'Europe continentale. Et le mouvement ouvrier naissant dans à peu près tous les pays est areligieux, dans le meilleur des cas, et antireligieux le plus souvent. Alors, bon, c'est pas un fait, avant d'être un fait de doctrine, puisque vous savez que les socialistes utopistes français, par exemple, en tout cas Proudhon, tous ne l'ont pas été, puisqu'il y a une tradition aussi de penseurs utopistes rattachés au catholicisme. Je pense à Pierre Leroux, par exemple, qui a joué un certain rôle en 1848, qui était chrétien, et puis il y a aussi, on en parlera, Lamennais, ou Frédéric Ozanam, qui sont des penseurs qu'on rattache à la tradition démocrate chrétienne. Enfin, démocrate chrétienne, à l'époque, c'est un peu un anachronisme, hein, mais en tout cas, il se rattache à, disons, des penseurs catholiques qui se posaient la question sociale de manière assez active, qui souvent d'ailleurs les a éloignés de l'Église, quand ils n'en ont pas été chassés, comme ça a été le cas de Lamennais. Alors l'Église à cette époque est du côté du pouvoir. Les ouvriers s'y trompent pas, lorsqu'il y a répression, il y a toujours à côté du préfet le général et l'évêque. Donc l'Église catholique apparaît massivement du côté de l'ordre, du côté du capitalisme, et constitue un adversaire pour le mouvement ouvrier qui tente, dans ces pays-là, notamment en France, qui qui aspire à la légalité, ne serait-ce que ça, et avoir son rôle de défense des travailleurs reconnu. Donc l'Église est interpellée par l'émergence massive de cette classe ouvrière pour laquelle elle n'est pas très outillée et dans lequel le message évangélique passe assez mal. Alors, il passe d'autant plus mal en France que, contrairement à les pays voisins, que ce soit l'Allemagne ou la Belgique par exemple, où il y a une classe ouvrière croyante, en France, les ouvriers à l'époque sont assez largement déchristianisés. La France est déjà considérée par le Vatican comme une terre à reconquérir. Donc c'est évidemment une préoccupation et qui explique assez largement tous les travaux qui ont entouré la production de cette encyclique Rerum Novarum. Alors que dit cette encyclique? Elle reconnaît d'abord la misère de la situation des ouvriers, la nécessité de s'en préoccuper, c'est la fameuse phrase de Le Play, qui était un penseur catholique, j'en reparlerai parce qu'il a joué un rôle très important dans l'émergence du catholicisme social. Le Play disait « L'industrie est une chose merveilleuse, elle produit beaucoup de richesses et beaucoup de pauvres ». Et ça, c'est une réalité évidemment massive, je l'ai déjà évoqué, que la question sociale que l'industrie était censée régler, si l'on en croyait Saint-Simon, en tout cas avait produit des phénomènes de paupérisme de masse, de gens qui vivaient dans des conditions, je n'insiste pas, il y a eu là-dessus une littérature assez grande, qu'il s'agisse de Dickens chez les Anglais ou de Zola chez nous, on sait beaucoup de choses sur les conditions de vie, sans parler des rapports des hygiénistes, Guillermet, etc., dans ce 19e siècle. Donc cette réalité massive qui apparaît bien sous le Second Empire, là où en France même les ouvriers commencent à être nombreux, inspire quand même la reconnaissance de cette situation faite aux ouvriers après la Révolution industrielle. Reconnaissance aussi, paradoxale, non, mais enfin, à l'époque, on ne se paye pas de mots, il y a une reconnaissance de la lutte des classes. C'est-à-dire que la société industrielle porte en son sein des contradictions d'intérêts, une lutte des classes, mais justement, l'œuvre chrétienne consiste à la réduire, et non pas, comme le font les socialistes, à l'envenimer, à en faire une stratégie, un point d'appui. Au contraire, la reconnaissance de cette lutte des classes conduit au programme des catholiques, qui est au contraire d'assurer la conciliation entre les classes, l'équilibre entre le capital et le travail. Alors comment reconquérir l'âme des ouvriers, qui est captée par les idées athées? Eh bien, il faut faire selon ce qui marche. Et qu'est-ce qui marche pour s'implanter parmi les ouvriers? C'est les syndicats. Donc l'encyclique dit « faites des syndicats ». Je résume un peu, mais en gros, c'est ça. Alors la forme du syndicat n'est pas très claire, parce que l'encyclique, évidemment, s'appuie avec une certaine nostalgie sur l'Ancien Régime et les corporations, qui, elles, étaient des structures sociales dans lequel chacun pouvait se situer. On se situait comme apprenti, compagnon ou maître. Et un des grands drames de la société moderne, Durkheim reprendra ça à sa façon, à travers la notion d'anomie qu'il évoquait à la fin du siècle aussi, en 1895, dans son livre sur la division sociale du travail. Il évoquait lui aussi d'ailleurs les corporations en disant que du temps des corporations, chacun avait sa place dans le système et que le grand drame de la société industrielle, c'est que les liens sociaux traditionnels s'étaient dilués et que, au fond, on était dans un état d'anomie de la société. Alors, à sa façon, l'Église dit cela, et les syndicats, c'est le moyen de recréer ce lien social. Alors, quel type de syndicats? Est-ce qu'ils sont à l'image des corporations, c'est-à-dire liant dans la même forme les ouvriers et leurs maîtres, et leurs employeurs, et leurs patrons, ou est-ce que ce sont des syndicats séparés? C'est-à-dire des syndicats où seuls les ouvriers pourraient se retrouver. Alors il y a une certaine confusion dans le texte même de la directive. Enfin, d'une certaine manière, le lapsus se comprend. Dans l'encyclique, il y a une ambiguïté là-dessus qui va se poursuivre jusqu'à la fin du siècle, mais progressivement, les syndicalistes chrétiens eux-mêmes vont imposer la logique des syndicats séparés. À la même époque, je crois l'avoir déjà évoqué rapidement, il existe en France un syndicalisme qu'on appelait et qui s'appelait eux-mêmes les syndicats jaunes. Les syndicats jaunes, il y a même eu une fédération des jaunes de France qui a vu le jour en 1901. Elle a eu une existence éphémère, elle était financée par les patrons, évidemment, et elle n'a pas survécu beaucoup parce que les ouvriers ont quand même assez vite vu qui était derrière, et dis-moi qui te finance, je te dirai ce que tu as le droit de dire. C'était assez vite réglé avec les syndicats jaunes. Et les syndicalistes chrétiens voulaient s'en distinguer. Ils ne voulaient pas apparaître auprès des ouvriers, évidemment, comme des jaunes, même si la CGT leur reprochait beaucoup d'être dans la main du patron et de casser les grèves plutôt que de les consolider. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ils ont souhaité avoir cette forme séparée, et on verra d'ailleurs que ça leur a créé beaucoup de problèmes avec les employeurs, et notamment cette fraction des employeurs qui étaient des employeurs catholiques, puisque le catholicisme social avait à cette époque-là une plus grande prégnance parmi les patrons que parmi les ouvriers. Alors cette question, alors l'encyclique priait les évêques et les églises locales de s'occuper de la mise en place du syndicalisme chrétien. Alors en France, évidemment, c'était un problème, je l'ai évoqué, à la fois parce que le mouvement ouvrier était déjà passablement antireligieux, on se souvient des écrits de Proudhon contre l'Église, contre la religion, et aussi parce que l'ouvrier ordinaire était assez déchristianisé, je l'ai évoqué. Mais en même temps, ce qui a en plus pénalisé la situation, c'est que les évêques français ont très mal reçu l'encyclique. Il y en a, le chiffre existe, 76 évêques sur 89, c'est-à-dire une proportion appréciable, vont garder le texte pontifical sous le coude. Hein, ça se fait des fois. En plus, Léon XIII est passé pour avoir une santé fragile. Vous savez, quand vous voyez une encyclique qui tombe, vous dites, bon, mettre de côté, on ne sait jamais, si des fois, demain, il y a un autre pape, il cessera ses lubies. Alors, ils n'ont pas eu de chance, parce que c'est vrai que Léon XIII avait été élu à pape en 1878, mais on pensait que c'était un pape de transition, parce qu'il avait effectivement une santé fragile. En réalité, il va durer jusqu'en 1902 ou 1903, je ne sais plus, mais enfin, il aura quand même la vie dure. Et il va faire endurer beaucoup de choses aux catholiques français, parce qu'il ne se contentera pas de produire cette encyclique appelant l'Église à faire des syndicats, ce que les évêques français ne voyaient pas d'un excellent jour. Mais en plus, il a appelé les catholiques partout en Europe à rallier la République et les institutions démocratiques, plus exactement. Ce n'est pas la République partout. Vous savez que ne serait-ce que l'Allemagne, à cette époque-là, est encore un empire, même si c'est un empire qui s'appuie sur des pays différents, enfin la Bavière, la Prusse, etc., qui ont chacun leurs propres institutions. Mais en tout cas, il appelait les catholiques à sortir de ce que le syllabus avait consolidé, c'est-à-dire ce lien très fort à l'Ancien Régime, et à admettre les formes modernes d'expression des questions politiques et de s'impliquer dans les débats politiques. Donc il a ajouté aux souffrances des évêques français en appelant à rallier la République, alors qu'à l'époque, il faut bien savoir quand même que l'Église catholique en France est massivement action française, quoi, hein, pour faire vite. Donc les penseurs de référence de l'Église, c'est les monarchistes, c'est Maurras, c'est... l'action française démarre à la fin du siècle, hein, à partir de l'affaire Dreyfus, mais disons que l'influence des catholiques sociaux se trouve auprès de gens qui sont des monarchistes, le plus souvent des orléanistes d'ailleurs, pour reprendre cette division bien connue entre les monarchistes de l'époque. Il y a une tradition catholique sociale, elle est extrêmement minoritaire dans l'Église. Elle prend sa source dans la pensée de Le Play, que j'ai évoqué tout à l'heure, il était commissaire aux expositions universelles sous le Second Empire, et il avait organisé une grande enquête dans toute l'Europe qui s'appelait l'Ouvrier Européen, dont il a sorti un livre qui s'appelait « La réforme sociale en France » en 1864, qui est vraiment d'abord le premier grand bouquin de sociologie à partir d'une enquête, mais en plus qui plaidait effectivement pour une prise en compte du social dans une logique typiquement catholique. Alors il y avait des patrons comme Léon Harmel, qui était connu à cette époque-là, qui est étonnant de ce qu'il appelait la corporation chrétienne. D'ailleurs, j'ai lu ce bouquin qui s'appelle « Le manuel de la corporation chrétienne ». C'est un livre programme, hein. Lui-même d'ailleurs avait installé dans son usine de la Chapelle des Bois en Champagne un système de ce genre-là, c'est-à-dire autour de l'usine, la paroisse, tout un système, je l'ai déjà évoqué à propos de Schneider, hein, au Creusot, qui avait aussi un système de ce genre-là. Mais on a vu s'étendre dans un certain nombre d'entreprises en France, qu'on a appelé le paternalisme patronal, qui était profondément ancré dans une pensée de type catholique social. Alors, il y en a eu d'autres, hein. Il y a des figures François René de la Tour du Pin, hein, qui est connu aussi. C'était un homme qui s'était intéressé au sort des ouvriers, justement, après avoir lu Le Play, qui avait créé avec Albert Demain l'œuvre des cercles catholiques ouvriers. Alors tout ça, c'était avec les frères de Saint-Vincent de Paul, hein, on est dans la famille catholique, et les cercles auraient rassemblé, si on en croit la littérature, jusqu'à 37 000 ouvriers à travers 375 cercles au début des années 1880. Mais Albert Demain, dans des écrits plus tardifs, reconnaissait que les ouvriers, ils avaient des ouvriers effectivement, mais que ceux-ci n'étaient pas vraiment représentatifs de ceux de leur époque et que leur docilité assez générale vis-à-vis de l'ordre social et de leurs employeurs les mettait pas en position de concurrence par rapport aux militants socialistes ou anarchistes de la même époque. Donc ces clubs, au fond, n'étaient pas véritablement très actifs et ont plutôt vivoté avant de décliner carrément à la fin du siècle. Alors les deux hommes, Albert Demain et La Tour du Pin, c'est intéressant parce qu'ils sont de la même école, ils sont amis, etc., de longue date, mais ils vont se séparer sur une autre question tout à fait cardinale de cette époque-là, qui est la question politique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire en 1892, le pape a produit une autre encyclique à travers laquelle il insistait donc pour que les catholiques rentrent dans les institutions démocratiques. Et donc ne pousse, ça sera plus clair encore dans une autre encyclique de 1902, dans laquelle il va établir une différence entre la démocratie sociale et la démocratie chrétienne, et donc ça va être le fondement spirituel du grand courant démocrate chrétien qu'on va voir émerger dans tous les pays d'Europe. Alors dans tous les pays d'Europe, sauf en France, et puis évidemment dans les pays de tradition protestante, je reviendrai là-dessus. Mais en France, on n'a pas eu de création d'un grand parti démocrate chrétien. C'est le cas en Italie, hein. Il y a un grand parti, le Parti du Peuple, hein, Don Luigi Sturzo, qui va être le créateur de ce grand parti, qui va avoir affaire avec Mussolini d'ailleurs au début des années 20, enfin, qui va accompagner l'installation du fascisme avant de se faire un peu passer à la moulinette. Et en Allemagne aussi, va se créer en 1901 un grand parti qui s'appelle le Zentrum, hein, qui est un grand parti démocrate chrétien, et vous savez que c'est dans ces deux pays-là, l'Italie ou l'Allemagne, la tradition démocrate chrétienne a encore de beaux jours devant elle, hein, puisque en Allemagne c'est encore le plus grand parti politique, et en Italie, où on a connu quelques petites misères dans les années 90 après l'opération main propre, mais enfin la démocratie chrétienne reste même aujourd'hui dans le débat italien une force politique de référence. En France, on n'a pas ça. Pourquoi ? Parce que l'essentiel des catholiques et de leurs porte-parole sont attachés encore à la monarchie, et le grand journal des catholiques, au moins jusqu'en 1926, où il va être condamné par le Vatican, c'est l'Action française. Donc c'est la pensée de Charles Maurras qui l'emporte et qui est... Alors du coup, on n'aura pas véritablement de grands partis, parce que les catholiques sociaux, les catholiques qui s'intéressent à la question sociale, sont très divisés. Et on le voit bien, puisque Demain, lui, Albert Demain, se rallie à la République, il entend l'appel du pape, alors que la Tour du Pin reste proche de Maurras et ne rentre pas dans cette logique-là. D'ailleurs, Albert Demain va créer un parti, il est parlementaire lui-même d'ailleurs dès le départ, et il va créer l'Alliance libérale populaire, qui est le parti catholique de droite, hein, qui est inscrit dans le Bloc national à l'époque, et dont la descendance, si vous voulez, on peut en trouver une filiation dans le journal La Croix, hein, dont un des directeurs avait été vice-président de l'ALP d'ailleurs dans les années 20. Hein, donc c'est une tradition catholique sociale de droite, on dirait. Mais il n'y a pas eu le pendant à gauche, si ce n'est, et là, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, la filiation démocrate chrétienne qui part de Lamennais aux Anam, etc., et qui conduit à la création d'un groupe de pensée, non pas d'un parti, qui s'appelait le Sillon, qui a été créé par Marc Sangnier en 1894, avec une revue qui s'appelait comme ça, qui se réclamait, lui, explicitement de la démocratie chrétienne. Mais il n'a pas même osé créer un parti politique. C'était un club de pensée, un groupe, qui a quand même eu jusqu'à 500 000 membres, dit-on, en 1908 ou 10, avant de décliner, parce qu'il a été condamné, d'ailleurs, par le nouveau pape Pie X, hein, qui avait condamné le Sillon, puisque le Sillon était porteur en même temps d'une certaine conception de la laïcité. Il faut dire que dans ces années-là en France, c'est que la bataille laïque était considérable, et que même ceux qui se recommandaient d'une pensée catholique sociale étaient fortement pris par cette logique d'une société laïque. Et c'est un débat qui va traverser le catholicisme français pendant très longtemps. Donc Sangnier, plus tard, va créer la Ligue de la Jeune République, qui deviendra le parti Jeune République, qui existait encore d'ailleurs jusqu'aux années 70. Alors en France, on va avoir un espèce de succès d'année de parti démocrate chrétien qui va s'appeler le Parti démocrate populaire, qui est né en 1924, je le cite, parce que les premiers syndicalistes chrétiens seront à la fondation de ce parti démocrate populaire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, qu'il s'agisse du courant socialiste ou du courant démocrate chrétien, les formes syndicales sont nées sans avoir un parti correspondant. Je l'avais montré pour la CGT, qui est née en 1895, avant que n'existe en France un grand parti socialiste. À l'époque, il y en avait 4 ou 5 qui étaient fortement concurrents entre eux. Et le parti socialiste en France s'est unifié en 1905, à une époque où le syndicalisme était déjà constitué. Schéma tout à fait inverse des pays européens, continentaux, où ce sont les partis sociaux-démocrates qui ont créé les syndicats. Les partis préexistaient à l'existence des syndicats, alors qu'en France, que ce soit dans le camp catholique ou dans le camp laïque, eh bien, les syndicats ont préexisté aux formes politiques correspondantes, enfin, dont l'idéologie leur correspondait. Alors, les premiers syndicats chrétiens, même s'il n'y a pas eu une prise en charge par l'Église, je l'ai dit, de la création de syndicats, il y avait, l'Église est une grande famille, elle a plein de composantes, et notamment son frère des écoles chrétiennes, par exemple, qui ont aidé à la constitution de premiers syndicats. Et donc, si vous prenez la littérature des syndicats héritiers de cette tradition, ils font naître les premières formes syndicales, ce qu'on appelait le CECI, le syndicat des employés du commerce et de l'industrie, qui est né en France en 1887, un peu avant l'encyclique. Mais la question, évidemment, était déjà dans les tuyaux depuis un moment. Donc le CECI, créé par les frères des écoles chrétiennes, et le frère Hiéron, qui en était l'animateur. Alors, il est né à Paris. Il y a eu quelques antennes un peu plus tard, à Lyon, un peu à Marseille, mais enfin, c'était surtout un syndicat des employés du commerce et de l'industrie. Donc syndicat des employés. Et ça, c'est très important, parce que ce qui va marquer très longtemps le syndicalisme chrétien en France, c'est que là où il arrive à pénétrer, c'est les milieux employés. Hein. Les milieux ouvriers, il a beaucoup de mal avec. Il y a, on verra, quelques formes syndicales dans le monde ouvrier, dans le nord de la France, qui sont très liées au syndicalisme belge. Il faut dire qu'à cette époque, la frontière, elle est poreuse, hein, c'est que je l'avais déjà évoqué au recensement. C'est Gérard Noiriel, dans son bouquin Le Creuset français, rappelle ces chiffres. Au recensement de 1901, la population de Roubaix, il y a plus de Belges que de Français. Et dans la zone Roubaix-Tourcoing, il y a les syndicats belges. Or, en Belgique, il existe un très puissant syndicalisme chrétien dès le début. Là, l'épiscopat belge n'a pas hésité à mettre en place des syndicats chrétiens. Et dans le nord de la France, il y a une espèce d'interpénétration assez forte avec les Belges. Et il y a aussi deux autres facteurs qui vont toujours jouer dans cette région-là, c'est l'immigration. Et l'immigration qui est italienne et polonaise dans ces périodes-là. Et dans l'immigration italienne et polonaise, les ouvriers viennent avec leurs abbés. Et c'est une classe ouvrière croyante, hein, et notamment chez les mineurs. Le milieu mineur a gardé très longtemps des traditions religieuses, je l'ai déjà évoqué. Il y a toujours la statue de la Sainte Barbe avant la descente dans les puits. C'est un milieu qui a gardé des traditions et qui va les garder, y compris en France, où le syndicalisme chrétien va trouver un ancrage assez durable parmi les mineurs. Mais bon, en dehors de ça, un peu le Nord, il va exister une autre forme syndicale intéressante qui sont les syndicats féminins. C'est une spécificité des syndicats chrétiens à l'époque, dans le syndicalisme socialiste, dans la CGT. On ne pense pas à créer des syndicats spécifiquement féminins. Il y a un syndicat de l'aiguille, hein, des femmes, enfin, c'est pour l'essentiel des femmes qui sont dans le monde de la couture, mais ils ne sont pas spécifiquement féminins. Pourquoi le sont-ils dans le syndicalisme chrétien? Pour une raison simple, c'est qu'ils ont été mis en place par des ordres conventuels de femmes qui sont préoccupés du sort des femmes de l'aiguille. Alors au départ, il y en a deux qui sont concurrents. Je vous les cite parce que c'est amusant. Le premier, c'est l'Union centrale de la rue de l'Abbaye. C'était la rue où le siège de l'association qui les organisait, qui était les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, et un deuxième syndicat qui était la Fédération française des unions de syndicats professionnels féminins de la rue de Sèze à Paris, organisée par la congrégation de Notre-Dame du Cénacle. Donc vous voyez qu'on se préoccupe du sort des ouvrières, mais enfin tout ça, ça ne fait pas des légions d'ouvrières, hein. C'est quand même des formes assez minoritaires. Donc on peut parler de prémices du syndicalisme chrétien, catholique, jusqu'à la guerre de 14. Il n'y a pas grand-chose de plus. Hein, donc très en retard, puisque à l'époque, 1902, les syndicats chrétiens allemands ont 200 000 membres. Donc vous voyez qu'on n'est pas à l'avant-garde en ces matières. Alors la CFTC, donc deuxième temps, la CFTC est née en 1919. donc dans l'immédiate après-guerre. Deux facteurs se sont conjugués pour stimuler la construction de cette CFTC. Le premier facteur, c'est la création, toujours à l'initiative de Rome, d'une internationale des syndicats chrétiens. Il y avait pourquoi est-ce que l'idée de monter une internationale, bon, il y avait une internationale, la Fédération syndicale internationale, hein, des syndicats laïcs, socialistes, mais il y a eu la création de l'OIT en 1919. Et à l'OIT, il y avait une représentation tripartite, donc les États, les employeurs et les syndicats. Et bon, là, c'est de là que naissent d'ailleurs les débats sur les fameux critères de représentativité. Parce que vous savez que l'OIT a été créée par les clauses sociales du traité de Versailles, et dans ces clauses, on dit siégeront dans la partie travailleurs les syndicats les plus représentatifs. Bon, partout c'était les syndicats socialistes, mais il y a des pays, l'Allemagne, la Suisse aussi, où la question de la présence des syndicats chrétiens était posée. Et les syndicats laïcs s'en sortaient mieux parce qu'ils avaient une internationale. Hein, et que c'est en fait l'internationale qui était représentée à l'OIT. Donc, il fallait, pour assurer la présence des syndicats chrétiens, créer une organisation internationale. Donc on s'est employé à ça avec une difficulté qui est qu'il n'y avait pas de confédération française. Et que l'internationale chrétienne en 1919, c'était les Belges, les Allemands et les Italiens. Les Italiens étaient un peu à l'état, un état assez faible. Les deux grandes forces, c'était les syndicats belges et les syndicats allemands. Et il était imprudent à l'époque de les mettre dans la même pièce. Parce qu'il y avait des tensions énormes, qu'on a retrouvées dans la FSI d'ailleurs, entre les Belges et les Allemands, en raison de l'attitude des syndicats allemands pendant la guerre de 14. Vous savez que l'Allemagne a envahi la Belgique, qui avait déclaré sa neutralité dans le conflit, que les syndicats allemands avaient plutôt soutenu l'invasion de la Belgique, et qu'ils étaient restés singulièrement muets lorsque on avait entrepris de déporter les travailleurs belges en Allemagne. Et ça, les syndicalistes belges, après-guerre, en voulaient beaucoup aux syndicalistes allemands, et donc il n'était pas prudent de les laisser au même endroit. Alors, il fallait qu'il y ait une composante française pour donner un peu d'équilibre et de lien à cette internationale, et donc il y a eu des pressions exercées pour que, enfin, ces formes éparpillées de syndicalisme chrétien se mettent ensemble et créent une confédération. Mais le deuxième facteur qui a été le plus puissant, c'est le retour à la France de l'Alsace et de la Moselle. On dit l'Alsace-Lorraine, mais c'est pas la Lorraine d'aujourd'hui, c'est en fait, à l'époque, le département de la Moselle. Or, les syndicats alsaciens et mosellans avaient créé, enfin, les chrétiens dans ces zones-là, avaient créé de puissants syndicats en Alsace et en Moselle, au sein de l'Empire allemand. Ils étaient membres de la Confédération des syndicats chrétiens d'Allemagne, mais c'était une composante de poids à l'intérieur de ce syndicalisme-là. Et évidemment, ils avaient beau être enthousiastes à l'idée de retrouver la France, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas d'autres syndicats chrétiens qu'eux, ils ont été un peu dépités et ils se sont battus pour que naisse une confédération. Et ça a été le deuxième facteur qui a produit cette constitution donc d'une confédération française de travailleurs chrétiens. Alors chrétiens, il y a débat au Congrès constitutif. Est-ce que c'est chrétien ou catholique? Parce que le C, pour l'essentiel, des formes existantes, c'était les catholiques. Alors là encore, c'est les Alsaciens qui ont gagné. Ils ont gagné en ceci qu'ils voulaient qu'on laisse le terme chrétien. Parce que ça a été une question qui était pendante dans toute la période d'installation de ces syndicats, de savoir si on établissait des syndicats par confession. Vous savez qu'en Allemagne, il y avait à l'époque un nombre à peu près égal de protestants et de catholiques, et donc on aurait très bien pu créer des syndicats strictement catholiques. D'autant qu'encore une fois, c'est bien l'Église catholique qui est à l'initiative. Mais il y a eu débat d'ailleurs dans le syndicalisme allemand là-dessus, et les Alsaciens avaient pris fait et cause, c'est une composante importante de ceux qui étaient favorables à des syndicats unitaires. Unitaires entre les confessions, pas avec les sociodémocrates. Donc entre les deux confessions. Et donc la décision avait été, au prix d'un débat vif, prise de faire des syndicats chrétiens. Et donc ils ont insisté pour qu'en France, même si l'essentiel des autres étaient des catholiques, on appelle ça des syndicats chrétiens, d'autant qu'en Alsace, il y avait une minorité protestante assez importante à l'intérieur du syndicat et dans la population. Mais ça a pris des formes ailleurs assez différentes. Il n'y a qu'un pays, au fond. Alors en Belgique, il y a pratiquement que des catholiques, sauf dans la partie qui est juste en dessous des Pays-Bas. Et les Pays-Bas ont présenté un profil particulier parce qu'eux, ils ont eu un syndicat catholique et un syndicat protestant, qui renvoyait d'ailleurs au conflit qu'il y avait entre les deux communautés. Les catholiques étaient minoritaires dans le pays, je ne parle pas dans le syndicalisme, mais dans le pays, les catholiques étaient minoritaires et avaient un sentiment d'ailleurs d'être maltraités. Et donc, dès qu'ils pouvaient créer des organisations pour défendre leur identité, ils le faisaient. Et pour s'en défendre, les protestants ont créé des syndicats protestants. C'est le seul cas qu'on connaisse où il y a eu des... enfin, que je connaisse, où il y a eu les deux confessions dans des syndicats concurrents. Partout ailleurs, l'aménagement... Alors, ce qui est étonnant, c'est que malgré tout, c'est toujours les catholiques qui sont à la manœuvre. Même s'il y a des syndicalistes protestants, et il y en a eu dans la CFTC, c'est toujours, d'ailleurs, la preuve est que dans les pays qui sont exclusivement protestants ou à large majorité protestante, il n'y a jamais eu de syndicalisme confessionnel. Alors, le cas de la Grande-Bretagne est évidemment manifeste. Les syndicats étaient des syndicats dénués de toute référence confessionnelle. Et l'idée d'avoir un syndicat protestant était absurde, puisque d'ailleurs l'Église protestante a beaucoup aidé à la constitution des unions. Enfin l'Église, oui, les abbés, les pasteurs ont beaucoup aidé à la constitution des syndicats en Angleterre. Et dans les pays scandinaves, nordiques, où c'est l'Église luthérienne est hégémonique, il n'y a jamais eu de tentation de la part de l'Église d'introduire le syndicalisme un syndicalisme spécifique, ce qui ne voulait pas dire d'ailleurs que l'Église ne s'intéressait pas au syndicalisme existant et à la question sociale, mais ils ne l'ont pas fait à travers, c'est normal, ils n'ont pas répondu aux appels de l'encyclique papiste. Donc on a bien quand même sous l'appellation syndicat chrétien, il faut bien voir que c'est l'Église catholique qui est à la manœuvre. Donc on a bien là un phénomène qui est propre à toute l'Europe, cette émergence de syndicalisme chrétien. Donc en France, émergence tardive, création d'une confédération qui ressemble un peu à un patchwork, mais enfin plutôt une peau de léopard, c'est-à-dire qu'il y a quelques taches sur le territoire dans un grand désert. Alors, du coup, les 20 années là, qui vont jusqu'à la guerre, la CFTC a dû relever en fait trois défis. Le premier, c'est effectivement celui d'avoir une implantation nationale, parce que ce n'est pas le tout de se dire confédération française des travailleurs, mais il faut encore que ça corresponde à quelque chose autrement que dans des statuts. Donc c'était la nationalisation de l'influence. Je l'ai dit au départ, bon, l'Alsace, le Nord, un peu les employés en région parisienne, dans la région lyonnaise, un peu le textile, alors là on voit bien les régions, la carte est facile, de Choletais, dans le Maine-et-Loire, les napperons de Cholet, tout ça. Donc là, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le textile, les Vosges, Roanne, enfin, une partie du département de la Loire, etc. Donc, dans ces endroits-là, une petite influence de la CFTC. Et pour assurer son développement, en fait, partout, la CFTC va constituer un véritable corps préfectoral, je dirais. Pour prendre une image, c'est-à-dire que la Confédération va être à l'initiative, elle va s'appuyer sur les personnalités régionales pour développer l'existence du syndicat, sachant qu'au moins jusqu'à la fin des années 20, ils ne vont pas trop pouvoir compter sur l'Église locale. D'ailleurs, le Vatican va régulièrement faire des remontrances aux évêques français qui continuent à ne pas prendre en compte cette priorité assignée partout par le Vatican qui est « il faut faire exister des syndicats chrétiens ». En fait, l'Église va commencer à s'en occuper, les évêques vont commencer à prendre en charge la question dans les années 30. Jusque-là, bon, il y a des abbés à certains endroits, certains sont notoires, dans le Nord par exemple. Plusieurs abbés se sont beaucoup... Et ça aide quand même, quand l'adhésion au syndicat est prêchée en chaire le dimanche, ça aide à faire des adhérents. Donc quand l'Église s'en est mêlée, ça a commencé à produire quelques résultats. Mais en tout cas, le premier défi qu'a eu à surmonter la CFTC, elle l'a fait en partie, au prix d'un effort volontariste, je dirais de son appareil, de son centre, qui était un peu léger, évidemment à l'époque, mais de nationaliser son influence. Le deuxième défi était un peu lié au précédent, mais c'était d'être présent parmi les ouvriers. Parce que je l'ai dit au départ, c'est un syndicaliste qui touche les employés, d'ailleurs la Fédération des employés est évidemment la plus grande de la CFTC à cette époque-là. Dans l'industrie, même quand elle arrive à exister dans l'industrie, elle est présente chez les employés et pas chez les ouvriers. Alors ça, c'est un état de fait qui va bouger un petit peu, d'abord après la création de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, qui lui-même est un mouvement international, vous savez, qui est né en 1927, et sa composante française est née l'année d'après, en 1928. Et donc la JOC va commencer à former des jeunes ouvriers, à les sensibiliser à l'activité syndicale, et donc la CFTC, dans les années 30, va progressivement puiser dans ce vivier un certain nombre de militants, de responsables, et va commencer à avoir une petite présence parmi les ouvriers. Et puis, il y a ce choix fait en 1936, au moment des grandes grèves, avec occupation d'usines, d'être présent dans la grève. Alors là, c'était un débat qui a été un débat douloureux, parce que outre le fait que la CFTC n'avait pas appuyé le Front populaire, pas plus que le Parti démocrate populaire, qui était assez hostile, la CFTC avait vu évidemment d'un assez mauvais œil ce mouvement de grève, qui plus est avec occupation d'usines. Parce que l'occupation des usines, c'est un déni du droit de propriété qui, comme chacun sait, est sacré dans l'Église. Donc les syndicalistes n'étaient pas très favorables. Mais ils avaient fait un choix qui était d'être présents là où les ouvriers étaient présents. Les ouvriers étaient en grève, il fallait être dans la grève. Sinon, ils auraient durablement été à l'extérieur de la classe ouvrière. Et donc, ce choix qui a été fait a permis à la CFTC de se faire un petit trou parmi les ouvriers, d'autant plus que la CGT était réunifiée à cette époque-là, on l'a déjà évoqué, que donc il y avait des communistes dedans, et que, évidemment, il y avait un jeu qui était fait sur une CGT dans laquelle il y avait des communistes, etc., et donc qui a permis de syndiquer un petit peu en dehors de la CGT. Le troisième défi, ça n'a pas été le plus simple, ça a été de se faire reconnaître dans son propre camp. Au début, la CFTC n'a connu, n'a rencontré qu'hostilité, au mieux l'indifférence des évêques, mais le plus souvent une certaine hostilité qui était d'ailleurs activée régulièrement par l'Action française, qui ratait pas une occasion d'épingler la CFTC et ses dirigeants démocrates chrétiens. Alors là, les divisions du camp catholique vont beaucoup jouer et ne vont pas faciliter l'émergence de la CFTC. Je l'ai évoqué, les dirigeants de la CFTC à l'époque, Zirnel et Gaston Tessier, sont des démocrates. Ils ont participé à la création du Parti démocrate, du petit Parti démocrate populaire, et ce sont des démocrates. Et pourquoi ils sont démocrates? Pourquoi acceptent-ils la République, l'héritage de la Révolution française? Eh bien, parce que c'est des syndicalistes, et que, vous savez, je l'ai souvent évoqué, en France, c'est la République qui a apporté les droits d'exister au mouvement syndical. C'est les droits, le droit d'association, le droit de manifestation, la liberté de la presse, etc., en France, sont liés au régime républicain. Et, bon, ce n'est pas forcément le cas en d'autres pays, mais en tout cas, en France, ceux qui étaient syndicalistes chrétiens ne pouvaient être que des républicains. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Eux étaient, par contre. Et ils étaient donc minoritaires dans leur camp. Alors ça aussi, ça va un peu évoluer au cours des années 30, je l'ai dit, l'Église va commencer à s'intéresser un peu plus aux syndicats, et surtout la condamnation de l'Action française par le Vatican va débloquer un petit peu les choses. Donc ces trois défis sont un peu remplis, atteints, disons, par la CFTC en 39. Alors, quelle est sa doctrine? Quelle est son idéologie à cette époque-là? Bon, c'est une idéologie évidemment très modérée. Elle s'inscrit dans les idéaux catholiques sociaux, elle prône la collaboration des éléments producteurs, c'est comme ça que ça s'appelle. Le capital et le travail sont les deux composantes de l'entreprise, du système capitaliste. Et reconnaissant les contradictions d'intérêts entre ces groupes que fait naître l'industrie, eh bien, la CFTC se donne pour mission de réconcilier les éléments producteurs, d'assurer, de remplacer la lutte des classes par la concorde entre patrons et ouvriers. Alors le moyen essentiel pour y parvenir, c'est la négociation, mais la CFTC se garde de condamner la grève. Alors elle la pratique très très peu, c'est pas un moyen d'action, c'est pas un moyen d'action du syndicat, mais elle doit exister parce que on doit pouvoir y recourir in ultima ratio, comme on dit. C'est-à-dire en dernier recours, lorsque tous les autres moyens ont été épuisés, ceux de la négociation, eh bien, il faut encore pouvoir faire grève. Et c'était la condition de survie, d'ailleurs, du syndicalisme, puisque les droits des ouvriers à l'époque sont si peu nombreux que si on les privait encore du droit de grève, on avait assez peu de chances, enfin, on avait toutes les chances, au contraire, de finir comme les jaunes, c'est-à-dire dans le discrédit total. Alors, elle la pratique peu, elle la pratique parfois, aux grandes dames des patrons catholiques, notamment la chambre patronale du textile du Nord, qui lui a fait 3 procès en cour à Rome pour faire excommunier ses dirigeants, parce que la CFTC avait participé à des grèves, notamment la fameuse grève d'Halluin dans le Nord en 1929, où la CFTC a participé à une grève aux côtés de la CGTU. Donc là, c'est pas la CGT réformiste de Léon Jouault, qui avait d'ailleurs pas d'implantation dans cette usine textile, mais à côté de la CGTU. Alors la CGTU, c'est le diable, c'est les communistes, c'est l'antéchrist, c'était inconcevable. Alors ça a été compliqué parce que les abbés ont essayé de jouer l'intercession, tout ça a fini à Rome, mais l'arbitrage papal a toujours été en faveur du syndicat, et au détriment des patrons du Nord ulcérés de voir... Le syndicat, au départ, les patrons n'étaient pas contre l'existence d'un syndicalisme chrétien. Au contraire, ils sont allés voir, ils se disent « Mais tenez, on vous donne un local, on vous donne de l'argent, etc. » Ils se sont dit « Basta ». Ils ont quand même, conscients du risque, ils ont voulu maintenir les employeurs à distance de leur syndicat, même s'ils étaient, encore une fois, porteurs d'une idéologie extrêmement modérée. En 1934, la CFTC a publié un document très important qui était le plan de la CFTC. Alors, le plan, à l'époque, tout le monde fait... des plans, le courant planiste est important dans la CGT et dans d'autres secteurs d'opinion, donc il existe un plan de la CFTC, qui est, ça c'est intéressant, c'est aussi très propre au syndicalisme français. Je vous ai parlé de la charte d'Amiens, déjà la charte d'Amiens qui est un texte de 1906 qui a été adopté par la CGT, donc une tradition qui n'avait rien à voir avec la CFTC, et la charte d'Amiens, elle reste un peu dans la mémoire collective en ceci qu'elle a établi pour le syndicalisme ce qu'elle appelle la double besogne. C'est-à-dire le syndicat doit répondre aux besoins immédiats des travailleurs, doit permettre la satisfaction des revendications immédiates, mais, comme dit la charte, ce n'est qu'un aspect de l'œuvre du syndicalisme, le syndicalisme doit aussi préparer l'émancipation intégrale des travailleurs. Alors à l'époque, c'est la grève générale, c'est les idéaux des syndicalistes révolutionnaires qui prendront d'autres formes après, mais elle établit durablement dans, disons, le code génétique des syndicats français, toujours cette idée de la double besogne. Et la CGT, dans les époques successives, formulera autrement l'œuvre émancipatrice, mais en tout cas, elle gardera toujours cette référence à cette idée que le syndicat a deux fonctions, une fonction immédiate et une qui est d'éclairer l'avenir. Et c'est intéressant de voir que le syndicalisme chrétien, donc, qui relève d'une autre tradition, avec des idéaux qui sont beaucoup moins... radicaux, disons, ou en tout cas ne se fixent pas forcément de transformation dans ce monde-ci. Ils voient plutôt l'avenir dans un monde idéal, dans la cité future, pour reprendre ça. Mais le plan de 1934, c'est un plan de réorganisation de la société que propose la CFTC. Alors, un plan très à sa manière, qui n'a pas grand-chose à voir, évidemment, avec les anticipations socialistes, mais... qui affirme, par exemple, la cellule de base de la société, la famille. La pensée familialiste est très forte. D'ailleurs, la CFTC n'est pas partisane du vote des femmes. Parce que la CGT est favorable à cette époque-là, pas toujours été, mais à cette époque-là, du vote des femmes. Par contre, la CFTC prône un vote familial. C'est-à-dire c'est le chef de famille qui vote. Si c'est une femme, c'est une femme. Si c'est un homme, c'est un homme. Bon. C'est souvent un homme. Mais bon, il n'y a pas d'hostilité de principe à ce que les femmes votent. Simplement, c'est la famille qui doit voter, pour bien marquer que la cellule de base, c'est la famille. Alors, le principe fondamental, c'est le principe de la négociation collective, et un autre principe qui lui est tiré de l'encyclique Quadragesimo Anno, c'est-à-dire la 40e année. La 40e année, c'est 1931. Il y a une encyclique en 1931 qui célèbre le 40e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum. Rerum Novarum était, elle passe dans l'histoire catholique, comme fondatrice de la doctrine sociale de l'Église. Et il y a donc tous les grands anniversaires, le 40e en a été un, on a une encyclique qui actualise la doctrine sociale. On a même eu Saint Gésimo Anno en 1991, et c'est Jean-Paul II qui a produit une encyclique sociale qui se référait, qui reprenait d'ailleurs les termes de l'encyclique de Léon XIII et qui la mettait au goût du jour, quoi. Donc là, on a une encyclique en 1931 qui actualise un peu celle de 1991, et le plan de la CFTC s'appuie beaucoup dessus, et notamment sur un point qui est le principe de subsidiarité. Vous savez qu'on en entend parler du principe de subsidiarité, notamment à propos de la construction européenne. C'est un terme qui a émergé dans le discours politique autour du traité de Maastricht, où il fallait rassurer les États sur les attributions qui leur resteraient même après l'intégration monétaire. Donc on a ressorti, c'est pas un hasard d'ailleurs, si on regarde bien d'où vient la résurgence du principe de subsidiarité, il vient bien quand même des démocrates chrétiens. Mais donc c'est... La CFTC, à l'époque, dans son plan, reprend le principe du principe de subsidiarité qui, comme vous le savez, signale que tout problème dans la société doit être réglé au niveau pertinent le plus proche. La région pour les problèmes qui sont d'attribution de la région, l'État pour les problèmes qui sont de l'État, etc. Bon, le principe de subsidiarité ne dit jamais qui a compétence pour dire quel est le niveau compétent. Donc on peut dire, venant de l'Église catholique, que c'est plutôt un principe où le lieu pertinent est défini par le centre. Ça a une certaine importance, cette histoire. On parle beaucoup du principe de subsidiarité. En tout cas, c'est un principe important pour la CFTC de l'époque et qui l'a conduit à porter un regard très critique sur l'État. Alors là, c'est la méfiance traditionnelle de l'Église catholique par rapport à l'État, mais si vous voulez, la conception que développe le plan de la CFTC, c'est celui d'un juste équilibre. L'État est là pour maintenir un équilibre dans les rapports entre les classes sociales. Il doit éviter que l'une l'emporte trop sur l'autre. Donc c'est une fonction d'équilibre. D'ailleurs, la notion d'équilibre est très très présente dans tout le vocabulaire du syndicalisme chrétien. Alors vous verrez pourquoi plus tard j'insiste un peu sur ce plan de la CFTC de 1934, l'insistance sur ce principe de subsidiarité, de méfiance à l'égard de l'État, parce que ça crée là une espèce de tradition, une constante qu'on va retrouver dans tout le développement de ce courant. Alors, je m'en arrête là, je vais passer à ma troisième phase, qui prend son départ après-guerre, parce que la guerre de 39-45 est une véritable rupture dans le syndicalisme chrétien. Il faut dire quand même que jusqu'à cette période, je ne détaille pas, je fais assez vite, mais il y a un conseil théologique qui travaille auprès de la Confédération. C'est-à-dire que toutes les décisions prises par le bureau confédéral de la CFTC sont validées par un conseil théologique dans lequel il y a des clercs, des abbés. Donc c'est encadré, si vous voulez. Et puis le recrutement marche par parrainage. Vous voulez être adhérent de la CFTC, il faut que quelqu'un se porte garant de votre bonne conduite chrétienne. Vous allez à la messe le dimanche, vous ne battez pas votre femme, vous ne vous saoulez pas tous les dimanches. Il y a quelques critères moraux qui faisaient qu'on était admis ou pas dans le sein du syndicalisme chrétien. Après la guerre de 39-45, tout ça va être rangé au rayon des accessoires et la CFTC va mettre un peu au clair ce rapport à la famille catholique. Donc elle va prendre un peu de distance. Pourquoi ? C'est très simple, c'est que d'une part, il faut quand même préciser ça, la CFTC est globalement résistante. Elle va acquitter un tribut à Vichy, comme la CGT, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ses responsables partiront à Vichy, s'intégreront dans le syndicalisme officiel, voire même dans les institutions mises en place par Vichy. Mais globalement, la CFTC va être résistante, et d'ailleurs Gaston Tessier, qui est son secrétaire général, va être lui aussi membre du Conseil national de la résistance. Et il y a une participation, d'ailleurs, des catholiques dans les réseaux de résistance. Il y a des réseaux spécifiquement chrétiens, le mouvement unifié de la résistance qui est animé par des catholiques, comme Freinet, les réseaux autour de lui. Mais ils sont aussi dans des réseaux, vous savez, le choix des réseaux, ça se faisait aussi pour des raisons géographiques. Donc il y avait des chrétiens dans Libération Nord, peut-être pas chez les FTP, mais enfin, en tout cas, il y en avait dans des réseaux où ils ont côtoyé les laïcs. Socialistes, communistes, donc si vous voulez, la génération militante qui sort de la guerre, qui a participé à la résistance et qui va porter la reconstruction de la CFTC après sa relégalisation, elle avait été dissoute, comme les autres en 40, et cette génération-là, elle n'a pas grandi uniquement au biberon de la paroisse, elle a fréquenté les laïcs, et donc du coup, eux ont une conception du rapport à l'Église, pas du rapport à la religion, mais du rapport à l'Église, disons de manière un peu plus distanciée. D'ailleurs, les statuts de la CFTC changent à cette époque-là. On fait référence à la doctrine sociale de l'Église, mais on n'égrène plus la liste des encycliques sur lesquelles s'appuient les résolutions confédérales. Donc il y a une espèce de mise à jour déjà, un petit peu à distance de l'Église. Et un débat commence à naître d'ailleurs autour de la... Alors la CFTC va connaître cette ruée syndicale que j'évoquais déjà pour la CGT, qui a atteint 3,5 millions, 4 millions... d'adhérents en 45-46, au moment de la libération, la CFTC va connaître aussi, alors dans de moindres proportions, mais une ruée relative vers ses rangs. Elle atteint 400-500 000 adhérents à l'époque, ce qui évidemment était des chiffres inimaginables dans l'avant-guerre. Alors dire que tout cela allait à la messe, c'est pas évident. Et on commence à s'en moquer un petit peu. C'est-à-dire que c'est plus un critère. Le critère, beaucoup le disent à cette époque-là, la CGT ressort réunifiée, de la guerre, on en a parlé, et cette fois-ci, le courant communiste est largement majoritaire. Donc, il y a beaucoup de gens dans la CFTC qui disent « Mais, l'objectif, c'est de syndiquer ceux qui veulent faire du syndicalisme en dehors de l'emprise totalitaire communiste. Et donc, il y en a même qui disent l'étiquette chrétien, ça embarrasse. On pourrait s'en défaire. Alors, ceux qui disent ça, ils sont assez minoritaires à l'époque. Il y a un homme qui porte ça, qui s'appelle Paul Vigneault, qui est le grand leader de ce courant-là, enfin, c'est un grand intellectuel. Vigneault, il avait créé d'ailleurs, avant-guerre, un syndicat, c'est un universitaire, Vigneault, il est professeur à l'école pratique des hautes études, c'est un grand théologien, il est spécialiste d'histoire médiévale, d'histoire religieuse médiévale, et donc un catholique évidemment indiscutable, qui a un grand prestige universitaire, et il avait créé en 1937 un syndicat, qui s'appelait le SGEN, le Syndicat Général de l'Éducation Nationale. C'était un syndicat, il l'avait créé dans son coin, enfin, si j'ose dire, mais c'est un syndicat qui avait des statuts laïques. Et il a demandé son adhésion à la CFTC. Mais il a demandé aux dirigeants de la CFTC, on adhère, le SGEN adhère à la CFTC, mais avec ses statuts. On ne les change pas. Alors il y a eu grande hésitation dans les rangs, mais Vigneault était une personnalité quand même, donc ils ont accepté, ils vont s'en mordre les doigts d'ailleurs assez vite, mais ils acceptent que le SGEN rentre dans la CFTC. Et c'est à partir du SGEN que va se mener cette bataille qui commence en 1946 avec l'idée il faut mettre de côté la référence au C de chrétiens dans le sigle de l'organisation. Alors, ils avaient quelques références. Par exemple, il est né un grand syndicat démocrate chrétien en Italie en 1945, qui a été reconstitué. Enfin, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'au départ, il y a eu un grand syndicalisme unitaire, et puis il y a eu une scission des catholiques, qui ont créé la Confédération italienne des syndicats de travailleurs, la CISL italienne. Mais elle n'a pas fait figurer dans son sigle la référence au christianisme, au catholicisme, et dans ses statuts non plus. La CISL est une... Alors évidemment, tout le monde savait qu'elle était liée au Parti démocrate chrétien, puisque ses dirigeants étaient dans les instances dirigeantes du parti, donc il ne s'agissait pas de le cacher, mais elle n'avait pas trouvé utile de faire référence explicitement à l'Église catholique. Et donc, des gens sont fondés à l'intérieur de la CFTC à dire, mais au fond, pourquoi ne pas tenir compte du fait que nous sommes en France, dans une société imprégnée de laïcité, et au fond, on pourrait très bien se priver du C de chrétien et devenir une centrale démocratique comme les autres, et disputer sur le même terrain que les autres. Alors, ils sont proches, ils sont pas isolés. Notamment les jeunes militants issus de la résistance sont sensibles à cette approche-là, mais pour l'instant, la Grande Fédération des employés, un peu traditionnaliste, est évidemment tout à fait opposée à cela. Elle est proche, ils sont proches du MRP, ils sont assez dans la tradition, pas très à gauche, quoi, si vous voulez, pour l'époque, alors que les autres, au contraire, sont beaucoup plus ouverts sur des idées progressistes. Vigneault, par exemple, a passé la guerre aux États-Unis, puisqu'il était recherché par la Gestapo, et il était très proche du CIO américain, qui lui-même, à cette époque-là, le CIO était rooseveltien, et il s'intéressait beaucoup, ne serait-ce que parce que les dirigeants du CIO, il y en a beaucoup qui venaient des pays d'Europe centrale, qui étaient venus dans l'entre-deux-guerres, des pays d'Europe centrale, et étaient très proches d'idées social-démocrates. Et Vigneault lui-même était un social-démocrate. En réalité, et donc lui, il était beaucoup plus proche des travaillistes anglais, de la gauche travailliste anglaise, etc. Et donc, culturellement, avec les dirigeants français, c'était pas tout à fait la même chose. Donc, il y avait une bataille qui était aussi politique à l'intérieur de la CFTC, et les gens qui soutenaient cette position étaient minoritaires. Ils ont été minoritaires, mais en une quinzaine d'années, ils sont devenus majoritaires à l'intérieur de la CFTC. En 1961. Il y a un changement de majorité qui est acquis. Alors, il faut retracer aussi, je vais le faire brièvement, mais ce mouvement-là n'est pas qu'un mouvement à l'intérieur du syndicalisme. Il s'inscrit aussi dans les débats du catholicisme de l'époque. Il y a un grand débat qui s'est emparé, ça avait commencé avant-guerre, notamment à partir d'un philosophe chrétien qui s'appelait Jacques Maritain, qui a eu une grande influence bien au-delà de la France sur, disons, une relecture de saint Thomas d'Aquin, sur la question du rapport entre la foi et la raison. Un grand débat dans lequel Vigneault était un grand spécialiste, parce que c'est des débats aussi qu'on a connus au sortir du Moyen-Âge, hein, dans la pensée chrétienne. Donc les débats sur les rapports entre raison et foi. Et saint Thomas d'Aquin, qui est l'introducteur d'Aristote dans la tradition, lui, c'est là qu'il avait épuisé ces idées-là, établissait, saint Thomas d'Aquin l'établit, disons, la coexistence de la foi et de la raison. Alors la raison étant évidemment en accord avec la révélation, pour les catholiques. Mais il établissait un registre distinct entre la foi et la raison. Et Maritain reprend ça en poussant l'idée, telle qu'il la pousse lui-même, à travers l'idée de séparation. C'est-à-dire qu'il y a deux registres séparés entre la foi et la raison, et notamment la raison, l'existence au monde, l'action dans le monde, relève du registre de la raison, et la foi relève du registre de l'intimité. Et c'est un débat dont Vigneault est le porteur, parce que Vigneault avait été le secrétaire de Jacques Maritain, il était très porteur de cette idée-là. Alors on la retrouve à travers un courant qui est mieux connu, c'est le personnalisme, qui après 1936, prend la figure de la revue Esprit, qui existe toujours. C'est Emmanuel Mounier qu'on a été c'était un disciple de Maritain. Et donc c'est un courant qui a beaucoup compté dans les débats du catholicisme après-guerre, le personnalisme, et un débat entre Vigneault, qui était un radical, lui, de la séparation, pensait que l'action au monde des catholiques, des chrétiens, devait être une action en chrétien. C'est-à-dire que le chrétien est animé par sa foi, mais sa foi est une question personnelle. Il n'a pas à la brandir comme un étendard. Là où d'autres courants catholiques, notamment autour des groupes Témoignages chrétiens, vous savez, est un journal qui est paru pendant la guerre, c'était des chrétiens résistants qui combattaient Vichy, mais en titre de témoignage, c'est-à-dire que leur pensée, c'était les chrétiens ont un témoignage à apporter en tant que chrétiens. Et il y a eu un débat qui a traversé le catholicisme à l'époque, notamment dans le monde syndical, mais au-delà, entre ceux qui pensaient que les chrétiens devaient agir au monde en tant que chrétiens, donc sortir la bannière chrétienne, et ceux qui pensaient que les militants n'avaient qu'à agir en chrétiens, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à brandir leur étiquette chrétienne sur une banderole, mais qu'elle était pour eux, elle était dans leur intimité. Donc c'est un débat de conception, si vous voulez, de la part relative de la foi et de la raison, et comment ces deux dimensions s'articulent. Donc c'est un débat qui n'a pas été que un débat syndical, ça a été un débat aussi au sein du monde catholique, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces 15 années d'évolution de la CFTC, c'est un débat, c'est la réflexion d'un syndicat sur lui-même, et c'est aussi une réflexion des catholiques sur eux-mêmes, sur leur façon d'agir au monde. Et c'est un débat qui aura des traductions importantes, le Concile Vatican II, par exemple, qui ouvre en 1961, et qui montre une évolution très importante de l'Église catholique vis-à-vis de la question sociale. Parce que c'est au Concile Vatican II que est admise la théologie de la libération, etc. Donc une certaine diversité d'approche politique au sein même du catholicisme. Donc on a là un mouvement qui est la toile de fond quand même de l'évolution de cette centrale syndicale. Mais pour qui s'intéresse à l'évolution des idées politiques, c'est assez passionnant de voir la CFTC entre 45 et 61 qui fait un travail sur elle-même. Alors c'est pas un travail comme ça, c'est des batailles politiques très importantes, des batailles de tendance à l'intérieur de la CFTC sur l'identité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on doit rester dans cette tradition se revendiquant de la doctrine sociale de l'Église, ou est-ce qu'on doit faire une organisation laïque? Une organisation laïque constituée pour beaucoup de catholiques. Il ne faut pas se tromper. Les bataillons formés par la JOC, par la JEC, par la Jeunesse étudiante chrétienne, vont être le corps militant de la CFTC de cette époque, et plus tard de la CFDT, et constitués de gens qui viennent bien de cette culture catholique. Mais, et ils vont finir par l'emporter, cette idée, c'est l'organisation elle-même doit s'inscrire dans le tissu laïque de la société française. En 61, le Congrès montre que les organisations, les fédérations, les unions départementales, portent majoritairement cette idée. Et entre 61 et 64, il va y avoir un énorme travail interne de la direction confédérale, conduite à l'époque par Eugène Descamps. Eugène Descamps est le secrétaire de la Fédération de la Métallurgie, mais il avait été secrétaire général de la JOC quand il était un peu plus jeune. Donc vous voyez, c'est lui-même un catholique pratiquant, mais dans son action syndicale, il est le tenant de la transformation de la CFTC. Il souhaite que la CFTC s'affiche de manière laïque dans le champ syndical et dans la société française. Donc, et là, ces 15 années, Vigneault va créer un petit bulletin qui s'appelait Reconstruction. Donc, c'est l'ambiance de 45-46, on est dans la reconstruction de la France, mais pour lui, c'est aussi la reconstruction du syndicalisme tel qu'il le voit. Et pendant une quinzaine d'années, 20 ans même, le bulletin va jouer un rôle de formation tout à fait considérable auprès des militants qui sont abonnés, qui le reçoivent. Il y a des séances de lecture collective, il y a des sessions de formation organisée autour de cette revue, qu'on peut consulter, hein, qui est tout à fait passionnante. Elle est riche d'exemples à l'étranger, de regards sur ce qui se passait dans les autres pays, de regards, par exemple, sur les congrès de l'International socialiste qui intéressent à l'époque. Ces gens-là, dès lors qu'ils sont eux laïcs, ils s'intéressent aux idées, et aux idées de gauche. Hein. Progressivement, tout ça glisse à gauche. Ce qui va favoriser ce mouvement, c'est trois choses. D'une part, l'implantation dans le monde ouvrier. Là, après-guerre, la CFTC réussit son implantation. Dans le monde ouvrier, elle a des fédérations industrielles actives, la métallurgie, la chimie, le bâtiment, le textile. Et l'implantation chez les ouvriers va évidemment favoriser à la fois une radicalisation dans les pratiques syndicales de la CFTC de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est pour l'essentiel en unité d'action avec la CGT, dans la métallurgie très souvent, la chimie un peu moins, dans le bâtiment c'est compliqué, mais il y a quand même une espèce de ligne unitaire qui est fondée sur l'idée que cette période-là est propice aux luttes sociales et qu'il est toujours plus facile de les conduire en unité d'action. Donc on voit bien des pratiques syndicales qui se déplacent. Le deuxième facteur qui va accélérer l'évolution, c'est les guerres coloniales, où la CFTC, et notamment le courant reconstruction et ce qu'on appelle les minoritaires à l'époque, vont prendre fait et cause très tôt pour l'indépendance des colonies, hein, notamment l'Algérie, mais aussi d'ailleurs l'Indochine, hein, et les pays africains. Donc ils vont être relativement en pointe sur ces combats-là, ce qui évidemment les place dans le sens de l'histoire. Hein. Du coup, ils vont emporter les convictions. Et le troisième point, je l'ai déjà évoqué, c'est les débats au sein du catholicisme lui-même, qui débouchent, hein, au début des années 60, sur Vatican II, et les crises à l'intérieur des organisations de masse catholique en France, notamment la JOC, la GEC. Il y a des crises profondes de direction parce que l'Église ne contrôle plus. On voit ces organisations de jeunesse qui glissent vers la gauche de façon massive dans ces années-là, avec évidemment une Église française qui a un peu du mal à suivre, quoi. Donc ça va se traduire par des dissolutions, des crises. Et ces militants-là, qui ont été aguerris, hein, dans ces batailles à l'intérieur de l'Église pour défendre des idées assez émancipatrices, et bien, quand ils arrivent à la CFTC, ils continuent le combat. Hein. Et tout ça va évidemment contribuer à travailler de l'intérieur la CFTC. Donc on a un congrès en 1964, fin 64, en décembre, qui est organisé et qui doit opérer cette transformation de la CFTC, hein, ce qu'on va appeler le congrès de l'évolution, ou le congrès de la transformation, ou le congrès de la déconfessionnalisation. C'est-à-dire que ce qui est proposé au congrès, c'est de changer le titre de la centrale, de changer sa déclaration de principe, ses statuts, etc., qui font explicitement référence à la doctrine sociale de l'Église, etc. Donc le congrès 64 s'ouvre, on sait qu'il y a une majorité, il faut une majorité qualifiée, il faut les deux tiers des mandats pour transformer les statuts, etc. Parce qu'il y a souvent des clauses comme ça dans les associations en général, et dans les syndicats en particulier. Et le congrès s'ouvre avec un vote, un premier vote, qui indique que 70% des mandats sont favorables à cette évolution. Voilà, au prix de débat, on débat sur le nouveau sigle, comment on va l'appeler. Il y a eu tout. Bon, finalement, on s'accorde sur CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail. Et parmi les 30% qui ne sont pas d'accord, il y a deux catégories. Il y a les légitimistes, les Alsaciens par exemple, qui disent « on n'est pas d'accord, nous, on est pour maintenir, mais si démocratiquement la majorité qualifiée est atteinte, nous respecterons la décision collective, on reste ». Et puis il y a le village gaulois, les irréductibles, qui disent « non, c'est une trahison, on ne peut pas accepter un tel reniement, etc. » D'ailleurs, ils vont quitter la salle du congrès dès la proclamation du résultat du vote, et ils vont aller au musée social à Paris créer une structure pour maintenir le syndicalisme chrétien. Et ils vont s'appeler d'ailleurs CFTC, petit M entre parenthèses, CFTC maintenu. Pour des raisons juridiques, ils n'ont pas le droit d'utiliser le sigle, puisque le sigle appartient à la CFDT. Hein. Elle l'a statutairement gardée à elle, puisqu'elle est la continuation de la CFTC. Donc les autres n'ont pas le droit de l'utiliser. Enfin, ça va faire de la procédure dans les tribunaux jusqu'en 78, donc pendant pas mal d'années, sur est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser le sigle, etc. Donc quelques batailles intéressantes mais anecdotiques. Mais en tout cas, c'est un petit groupe résiduel qui représente 10% des mandats et qui perdure aujourd'hui sous la forme de cette CFTC que l'on connaît, qui n'a pas grand-chose à voir avec la CFTC du début des années 60. C'est une espèce de réduction, hein, presque au sens chimique du terme. C'est ce qui reste après que l'opération ait été faite. Donc c'est vraiment une réduction assez traditionnaliste. Bon, à droite, si on veut la classer dans le champ, défenseur de la famille, toujours. Hein, ils ont gardé vraiment le noyau identitaire originel, pratiquement celui de l'avant-guerre. et okay, ça a annulé un petit peu toute l'évolution qu'il y a eu après-guerre. J'insiste pas beaucoup sur l'histoire de la CFTC. La CFTC, normalement, a été promise à une belle mort assez rapide pour deux raisons. La première, c'est que ses points d'appui essentiels, c'était deux forces. C'était les mineurs, pour des raisons que j'ai vaguement évoquées, plus la grève de 63, qui leur avait donné un certain prestige. Ils avaient été très actifs. Et les mineurs avaient voulu rester dans la tradition, mais les mines, en 66, elles n'étaient pas promises à un avenir radieux. Hein. Elles étaient déjà dans les tuyaux des pertes d'effectifs, des pertes d'emplois. Et puis les professeurs de l'école privée, évidemment, bon, tout ça, ça ne fait pas des organisations de masse. Et donc on s'est dit, bah, voilà, avec la relève générationnelle, ils vont disparaître. Mais ils n'ont pas disparu pour une raison simple, c'est qu'ils ont obtenu la reconnaissance de représentativité. Ça a été tout à fait extraordinaire. Ils avaient a priori aucune chance. Vous savez qu'il y avait des critères de reconnaissance de la représentativité des syndicats, l'attitude patriotique pendant la guerre, une certaine ancienneté, l'indépendance vis-à-vis des employeurs. Bon, ça, on était à peu près d'accord, mais il y avait aussi un critère de nombre et d'importance. Et là, la CFTC de 65 ne les avait pas. Mais ils ont été reconnus par le pouvoir politique. Et là, on a eu un premier biais dans les critères de représentativité. Pourquoi ils ont été reconnus représentatifs, ça c'est la petite histoire, mais ça vaut le coup de s'y arrêter. Gilbert Granval est ministre du Travail. Granval, c'est un gaulliste de gauche, un laïc. Il voit le dossier et il dit non, c'est trop petit. Hein, ça, c'est, donc non. Bon. Cela dit, là-dessus, il y a les élections présidentielles de 65, donc un nouveau gouvernement après, et c'est Jean-Marcel Jeanneney qui est ministre du Travail. Et Jeanneney, lui, c'est un démocrate chrétien, enfin, plus chrétien que... Enfin, c'est un démocrate, hein, mais il est plutôt à droite, quoi, c'est pas... Et lui, il ne prend pas la décision, lui va arbitrer chez le président de la République, déjà, à l'époque. Et c'est le général de Gaulle, et il voit quoi? Il dit, mais ça, c'est la tradition démocrate, catholique sociale, mais c'est ma tradition. Et comme la France, c'est moi, bah, la CFTC est évidemment représentative. Alors, on a inventé une nouvelle notion qui est de représentativité, parce que ça correspond à une tradition. Donc, voilà, c'est pour ça que la CFTC... a survécu, parce que dès lors qu'elle avait la reconnaissance de représentativité, elle est restée dans le panorama syndical, et sa survie a été assurée une deuxième fois par l'extension, au début des années 80, de la négociation d'entreprise, qui fait que là où les employeurs avaient envie, besoin, tout ce qu'on voudra, de signer des accords, ça se faisait, ils étaient fortement incités à le faire, et bien la CFTC a été très souvent mobilisée, c'est ce que j'appelle un syndicat de confort pour les employeurs, ou de réconfort, qui fait que, bon, la CFTC, ayant trouvé une utilité sociale, a perduré jusqu'à aujourd'hui avec les nouveaux critères de représentativité. Il est probable qu'elle vit ces derniers moments. Donc, mais laissons les morts enterrer les morts, comme dit l'Évangile selon saint Luc, et parlons plutôt de ce qui compte, c'est-à-dire la CFDT. Alors, la CFDT, d'hier à aujourd'hui, a une trajectoire un peu singulière. Hein. On peut distinguer trois grandes séquences. La première, c'est celle qui va de 65, donc le lendemain de la déconfessionnalisation, jusqu'en 68. La deuxième, bon, c'est un peu la, disons, la mise à jour doctrinale. Hein, comment un syndicat qui sort d'une référence transcendante cherche à se définir au monde, hein, d'une certaine manière. Donc, une identité dans le siècle, quoi. La deuxième partie, c'est mai 68 qui ouvre cette deuxième séquence, c'est ce que les historiens ou les politistes ont appelé la période de la radicalisation, qui va en gros jusqu'en 77. Puis en 78 s'ouvre une troisième période qui court jusqu'à aujourd'hui, on fera des nuances à l'intérieur, mais qu'on a appelé la période du recentrage ou de la resyndicalisation, mais le terme qui est resté c'est celui de recentrage. Donc, trois périodes. On va les parcourir et on va s'arrêter un peu plus sur la troisième qui nous mène jusqu'à aujourd'hui. Alors, mais les périodes antérieures sont quand même très intéressantes, parce que c'est elles qui permettent aussi de comprendre, hein, ce qui est... c'est parce que, bon, ces trois périodes, comme elles marquent des transitions très fortes, quoi, hein, les identités sont différentes. Entre 65 et 68, bon, la CFDT cherche à trouver des sources d'inspiration et à définir sa doctrine. Alors, dans ses statuts, elle a maintenu la référence à l'humanisme chrétien. C'est une concession faite aux Alsaciens. Il y en aura d'autres, mais c'est parmi d'autres. Hein. Donc, elle s'inspire de diverses sources, dont l'humanisme chrétien. L'humanisme, ce n'est pas les encycliques. Hein. C'est plus large. Alors, elle adopte une position plutôt à gauche, une orientation qu'on peut qualifier de social-démocrate, résolument. Si on prend les catégories de l'époque, si vous voulez. Alors, Il faut dire qu'à l'époque, le Parti socialiste n'occupe pas le champ politique de la social-démocratie. En 66-68, le Parti socialiste, c'est Guy Mollet. Il est ressorti en piteux état de la guerre d'Algérie. Il est un peu discrédité. On est plutôt dans une période où la gauche cherche à rassembler ses forces. Il y a une candidature unique en 65. La Fédération de la gauche démocrate et socialiste s'est constituée à cette occasion. En 67, il y a des élections législatives où il y a une plateforme de la FGDS, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, avec un leader qui apparaît plus ou moins naturel, qui est François Mitterrand, contesté par Defferre, par la tradition SFIO. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails de l'époque, mais en tout cas, la CFDT qui a glissé vers la gauche n'a rien à voir avec ces gens-là. En plus, la SFIO de Guy Mollet, c'est des laïcards. Ils sont très bouffurés, comme on dit dans la tradition française. Et la CFDT, elle a beau avoir affiché sa déconfessionnalisation, pour beaucoup, elle sent encore l'eau bénite. Et donc, ça va générer... pareil vis-à-vis de Force ouvrière, d'ailleurs, qui a toujours vu la CFTC et la CFDT pareil, avec des pincettes, parce que tout ça respirait quand même encore les aubes et les clochettes du Vatican. Donc, donc on a quand même cette question religieuse en France, dans la gauche, c'est pas jusqu'aux années 70, c'est pas une question évidente. Donc la CFDT penche à gauche, mais elle a peu à voir avec avec le champ politique français de la gauche. Elle puise plutôt, je l'ai déjà dit, vers la gauche travailliste anglaise et vers les grands syndicats sociodémocrates européens. En même temps, elle se déclare favorable à la planification démocratique et ce qu'on appelait à l'époque la socialisation des grands moyens de production et d'échange. C'est-à-dire elle est favorable à un grand programme de nationalisation, et la planification démocratique, c'est une idée qui est très dans l'air du temps, ce qui a eu de la planification à la française après-guerre, on l'a déjà évoqué dans une séance précédente, et que, c'était pas une prise de position radicale d'être en faveur de la planification. Aujourd'hui, vous dites ça, vous paraissez pour un martien, mais à l'époque, ça relevait plutôt du sens commun. Donc, elle est favorable à l'Europe, mais elle dénonce l'Europe des marchands. Elle est pour l'Europe des travailleurs. Dès 64-68, elle a une élaboration, mais un attachement assez constant à l'Europe. Un grand nombre de ses responsables sont assez proches du PSU à l'époque, idéologiquement. Le PSU est un petit parti de gauche qui avait fait scission de la SFIO à propos des guerres coloniales, dans lequel il y avait des gens comme Dereux, comme Bérégovoy, comme Michel Rocard, Gilles Martinet et quelques autres qui plus tard adhéreront au Parti Socialiste reconstruit après les années 70. Mais à cette époque-là, donc on a un petit parti qui n'a pas une très grande influence politique, mais qui a une certaine influence idéologique. Elle se pose là comme organisation minoritaire politique, mais possible rénovateur d'une gauche politique dans laquelle la composante SFIO était passablement hors d'usage. Alors, sur le plan des pratiques syndicales, on voit bien dans les années 64-68 une certaine cohérence, disons, dans ce qu'on peut appeler la fonction représentative du syndicat, c'est-à-dire sensible aux revendications, sensible aux mobilisations sociales. Bon, c'est l'époque, des grandes luttes, 64-68, les grandes luttes qui vont conduire à 68, d'ailleurs. En 66, il y a le fameux pacte d'unité d'action avec la CGT. On a une période très conflictuelle, avec des millions de journées de grève par an. Et la CFDT, il est très à l'aise. Enfin, ça ne lui pose pas de problème. Elle est attentive aux négociations collectives, aux résultats qui en sortent. Et donc, elle a une certaine... avec une stratégie unitaire à la clé, qui plus est, dans la plupart des champs professionnels. Et donc, elle vit assez bien cette période de montée des conflits. Alors, c'est une période de grands débats internes, tout à fait intéressants, et qui s'organise autour de deux lignes stratégiques qu'il faut évoquer. Il y a d'ailleurs au sein de la CFDT un groupe de travail idéologique qui se réunit très régulièrement, pas seulement avec les membres du Bureau national, mais aussi des représentants des grandes organisations, des fédérations, des régions, des unions départementales. Et ce groupe de travail idéologique est un lieu d'échange, d'élaboration tout à fait intéressant à observer. Alors, la première élaboration a trait aux valeurs, parce que maintenant qu'on s'appuie plus sur les valeurs de la doctrine de l'Église, il faut trouver des valeurs laïques. Bon, là, il n'y a pas trop de problèmes, démocratie, liberté, responsabilité, solidarité, justice, etc. Il y a un fond commun assez large, des militants et des responsables de la CFDT. La CFDT condamne le capitalisme, mais faut-il se référer au socialisme pour autant? À l'époque, c'est pas encore très clair. Et justement, il y a toute une élaboration là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle socialisme entre la social-démocratie et le stalinisme triomphant des années 60? Il y avait une place à inventer dans laquelle la CFDT commence à réfléchir. Et il y a un débat stratégique. Et c'est celui-là qui polarise l'attention. Pendant 2-3 ans, il sera en partie réglé en 68, mais je m'y arrête parce qu'en fait, il permet de comprendre la suite de l'histoire. Et le débat, il est entre une stratégie qui s'appelle la stratégie commune et une stratégie qui s'est appelée la stratégie autonome. Alors, de quoi il s'agit? Les tenants de la stratégie commune considèrent que le syndicalisme n'a pas toute la réponse à la question de la transformation sociale. Ils sont évidemment sur une stratégie de transformation socialiste de la société, mais ils pensent que le syndicalisme ne peut pas en être porteur tout seul. Et donc, il doit construire un pacte, un contrat avec des forces politiques qui est au fond un contrat d'échange. C'est-à-dire qu'une fois ces forces politiques arrivées au pouvoir, le syndicat a la garantie qu'elles opéreront les réformes de structure dont il aura été convenu préalablement, le syndicat apportant sa garantie, disons, de contenir l'impatience des travailleurs. Donc c'est un échange de services bien rendu et qui permettait... Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape fondamentale, c'est le syndicat filtre les revendications, les ordonne, retient, établit des priorités dans les revendications et les ordonne en fonction du projet social qu'il a lui-même. Et deuxième temps, il va les négocier, ces priorités, ces réformes de structure qui sont avec d'autres forces syndicales, la CGT évidemment, mais aussi associatives, les associations familiales, culturelles, etc., et les partis politiques qui seraient potentiellement intéressés par une démarche de ce type-là. Et la troisième étape, c'est celle de l'accord entre syndicats et partis pour conduire une telle stratégie, la quatrième commençant le jour où les forces politiques accèdent au pouvoir. Et on est quand même dans une période où on pense quand même bien qu'un jour la gauche y arrivera. Donc ça, c'est la stratégie commune. Elle est vivement contestée. Alors elle est portée par des fédérations comme la Chimie, conduite notamment par Edmond Maire, qui en est à l'époque le secrétaire général. Et c'est lui un des plus... Alors, elle est aussi... C'est des débats qui ont lieu au même moment dans la gauche, et notamment dans le PSU. Hein, c'est-à-dire des gens comme Bérégovoy, par exemple, ou comme Michel Rocard. Alors, Michel Rocard vient dans un stage de la Confédération présenter cette logique qui est celle du contrat de plan, celle du contrat entre forces politiques et syndicales dans le cas d'une alternance à gauche. Donc, elle est très imbriquée avec des débats politiques et notamment la tendance majoritaire du PSU de l'époque. Alors, face à cette stratégie, il y a de vives oppositions. Le SGEN, toujours Paul Vigneault, qui est assez hostile à cette logique-là, mais aussi Jacques Julliard, qui à l'époque est un dirigeant du SGEN, vous connaissez, éditorialiste à Nouvel Observateur aujourd'hui, mais il a été assez important dans l'élaboration théorique de la CFDT des années 70. Les Pays de la Loire, le bâtiment, etc., défendent au contraire une logique d'autonomie du syndicalisme en constatant que le progrès social en France a toujours fonctionné par des grands à-coups. 36, la libération, etc. Il a fallu des moments forts pour que le progrès... Et lorsque ces moments-là survenaient, les cadres convenus entre experts ou entre avant-garde politique et syndicale explosaient sous le coup des mouvements sociaux. Et que donc, il fallait soigneusement se garder d'engagement de type technocratique dans des relations entre... un gouvernement par définition incontrôlable et une fonction de disciplinarisation de la classe ouvrière que d'ailleurs la CFDT, avec ses maigres forces par rapport à la CGT, aurait bien du mal à organiser. Donc il y a une stratégie très... les tenants de l'autonomie sont d'ailleurs majoritaires au congrès qui suit. Puis la question de l'autonomie, de la stratégie commune va être réglée par 68, parce qu'on est typiquement dans le cas qu'évoquaient d'ailleurs les défenseurs de la stratégie autonome. Mais c'est un débat qui est très important parce qu'on va le retrouver plus tard. Alors, la deuxième, donc c'est une époque d'intenses débats internes, et dans les congrès, les conseils nationaux de la CFDT, ça chahute, il y a vraiment des oppositions entre eux. Et le débat est porté à l'époque par ce qu'on appelle les organisations, c'est-à-dire les fédérations professionnelles, les unions départementales, les régions aussi, parce que dans certaines régions, la région a une certaine importance. Pays de Loire, Rhône-Alpes, par exemple, les Alsaciens, le Nord, etc., sont des grands producteurs d'influence dans le débat confédéral. Donc il y a un débat assez vivant, c'est une organisation qui est observée en raison de la vivacité de ces débats. Ce sont des débats syndicaux et en même temps qui ont quand même une forte dimension politique. En marge d'une gauche qui en est encore à passer des accords électoraux de basse intensité, quoi, hein, pour rester gentil. Quoi. Alors, la deuxième période commence avec 68. Et là, la période de la radicalisation, là, la CFDT va hériter des contacts qu'elle avait tissés avec l'UNEF lors de la guerre d'Algérie. Hein. Elle avait beaucoup travaillé avec... ils étaient encore la CFTC avec l'UNEF. Et là, dès le début du mouvement étudiant, la CFDT est en prise avec ce qui se passe. Et quand le mouvement de grève va démarrer dans les usines, elle va relativement épouser assez facilement la montée de la combativité, elle va l'entretenir, aider à l'extension de la grève. Et le côté radical de 68 ne lui déplaît pas, ne serait-ce d'ailleurs que pour déborder un peu la CGT sur sa gauche. On a déjà évoqué ici, hein, mai 68, et une attitude de la CGT qui a poussé le développement de ce mouvement. Au début de 68, il est indiscutable que même si ce n'est pas les syndicats qui, formellement, le mouvement... On a déjà longuement parlé ici, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'évoquais cette idée que les syndicats n'avaient pas été les chefs d'orchestre de l'extension de ce mouvement. Ils avaient favorisé plutôt son extension, elle était partie avec une certaine autonomie, mais qui avait été préparée quand même par 2 ou 3 ans de mobilisation, alors là, d'origine syndicale dans l'industrie, et que, bon, après, c'est la gestion du mouvement quand il arrive à son apogée. Là, on commence à voir des stratégies syndicales différenciées, où on commence à voir une CGT un peu inquiète d'un mouvement dont elle ne contrôle pas tous les tenants et les aboutissants. Et la CFDT, elle a, elle, plutôt au contraire, épousé cette spontanéité. Le non-contrôle du mouvement ne la gênait pas. Elle a même soutenu les grèves à la période où le travail reprenait gentiment, alors que la CGT et FO entreprenaient plutôt d'accompagner le mouvement de la reprise. La CFDT, au contraire, continuait à soutenir ceux qui tenaient la grève. Et c'est pendant le mouvement, donc le fameux communiqué du 17 mai 68, qui se termine par cette phrase bien connue, « À la monarchie industrielle et administrative, il faut substituer des structures démocratiques à base d'autogestion. » Et là, la CFDT entre en socialisme, c'est-à-dire qu'elle épouse une logique, elle revendique la notion d'autogestion. Alors, elle était déjà discutée dans certaines fédérations, la notion d'autogestion à l'époque, notamment dans la chimie, notamment dans la fédération de l'habillement cuir textile, la fédération Aquitex, hein, qui était très porteuse de ces idées-là, ou dans le bâtiment, mais avec des logiques un peu différentes. Mais la notion d'autogestion, à l'époque, c'est une notion un petit peu floue. Mais elle est en phase avec le mouvement, elle est en phase avec 68, elle est en phase avec le côté anti-autoritaire et basiste, au fond, d'un mouvement qui s'appuyait quand même beaucoup sur la mobilisation des travailleurs, quel que soit son côté spontané, on peut toujours en discuter, mais en tout cas, il y a une part d'autonomie, à l'évidence, dans ce mouvement des grèves, et les syndicats ont chevauché le mouvement plus qu'ils ne l'ont totalement maîtrisé. Alors, c'est une notion, d'ailleurs, je propose qu'on fasse une séance sur l'autogestion. On pourrait, je sais même qui faire venir, c'est l'historien Franck Georgi qui a écrit beaucoup, un livre d'ailleurs que je vous conseille, si l'histoire de la CFDT vous intéresse, qui s'appelle « L'invention de la CFDT ». C'est paru en 95 aux éditions de l'Atelier, c'est un gros livre, c'est un historien, donc un historien doit faire un gros livre, sinon... Mais bon, je dis ça en plaisantant, parce que c'est fort documenté, et il décrit bien tous ces aspects-là sur lesquels je suis passé assez vite. Et Georgie a piloté un autre ouvrage, alors là, qui répond à un colloque qui a été organisé par les historiens de Paris 1 il y a quelques années, qui s'appelait l'autogestion, l'âge de l'autogestion. Enfin, l'âge de l'autogestion, c'est un bouquin de Rosan Vallon, mais qui s'appelait l'autogestion. Je ne sais plus quel était le titre du colloque, dont est sorti un livre collectif. Donc on pourrait demander à Franck de venir, on le connaît bien, et ça a été un habitant du 12e en plus. Donc, ça fait plein de raisons pour lui dire de venir nous faire un topo. Ça serait intéressant, parce que c'est une notion extrêmement polyforme, hein, l'autogestion. À l'époque où la CFDT en parle, on en parle en Yougoslavie, de l'autogestion yougoslave. Hein. On en parle en Algérie. Hein. Il y a eu des formes d'autogestion. Alors bon, après coup, on peut se dire que c'est pas exactement ce qu'entendait la CFDT, mais qu'entendait-elle exactement par là? Parce que la Fédération de la Chimie, par exemple, envoyait plutôt un mode de gestion démocratique des entreprises, là où la Fédération Aquitex, elle était plutôt dans la tradition conseilliste, parce qu'il y a un passé dans la tradition conseilliste du mouvement ouvrier. Alors on trouve ça chez Rosa Luxembourg, on trouve ça chez Anton Pankouk, donc les socialistes révolutionnaires des Pays-Bas au début du siècle, ou dans la République des conseils en Hongrie, par exemple, en 1919, les thèses du conseillisme ouvrier qui présentent justement une société démocratique construite à partir des conseils d'usine, avec un parlement qui lui-même serait assis sur des représentations des conseils. Donc ça, c'est extrêmement radical hein, comme conception. Alors c'est pas exactement non plus ce que la CFDT entend par là, mais disons que toutes ces traditions se mêlent et se retrouvent sous ce vocable d'autogestion qui sert un peu de point de ralliement et qui va être la bannière politique de la CFDT pendant 10 ans. Et d'ailleurs en phase avec une époque, enfin ça va vraiment, elle va d'une certaine manière cristalliser cette aspiration émancipatrice qui était dans mai 68. Il n'y avait pas que ça dans mai 68, mais il y avait aussi ça. Et la CFDT, d'une certaine manière, produit un sens à ces événements, produit un sens à la dynamique sociale de cette époque-là, et elle va se retrouver en phase avec notamment une partie de ces jeunes ouvriers qui sont rentrés dans l'action dans ces périodes-là, et elle va enregistrer d'ailleurs une progression sensible de ses effectifs, notamment dans les industries, où elle va commencer à poser des problèmes d'ailleurs à la CGT à certains endroits. Donc on a une dynamique sociale qui se crée à partir de cette symbolique de l'autogestion. Alors après mai 68, il y a le fameux congrès de 1970 où la CFDT va définir ce qu'elle entend par son socialisme autogestionnaire. Il y a 3 motions en compétition, toutes les 3 évoquent le socialisme. Donc il y a bien un mouvement de pensée, une convergence vers ces idées-là. Alors, la motion victorieuse, c'est celle que défendait Edmond Maire à l'époque. Il va devenir, d'ailleurs, l'année d'après, secrétaire général à la place de Jeanne Descamps, qui était malade. Alors, la définition, je disais, est un petit peu en creux, mais à l'époque, il y a ce qu'on appelle les 3 piliers sur lesquels repose la conception stratégique de la CFDT. Ces 3 piliers, c'est 1, la socialisation des grands moyens de production et d'échange, 2, la planification démocratique, 3, l'autogestion. C'était les 3 dimensions, avec un débat interne très fort d'ailleurs sur la part relative de ces 3 éléments, sur sont-elles complémentaires ou peut-on penser l'autogestion sans la nationalisation, enfin bref, tous les débats qui sont des débats de la gauche de cette époque-là, en tout cas assez vivants à l'intérieur de la CFDT. Le débat stratégie autonome, stratégie commune, lui par contre, il a disparu. Mai 68, d'une certaine manière, avait nettoyé le problème parce que, 1, on était bien dans ces logiques d'à-coup, de grandes négociations interprofessionnelle, c'est comme ça que le progrès social avance chez nous, et puis la gauche politique était dans un tel état, de toute façon, que l'hypothèse d'une arrivée de la gauche au pouvoir s'était plutôt écartée après mai 68. Alors il faut dire quand même que cette radicalisation de la CFDT avait plein d'ambiguïtés. Elle traverse toutes les années 70, les grandes luttes, vous savez, le juin français à Saint-Brieuc, l'IP, lutte emblématique, hein, dans laquelle on trouve les militants de la CFDT, on produit, on vend, on se paye. C'était la forme pratique de l'autogestion confrontée à une fermeture d'usine. Donc c'est dans les utopies du moment. Alors, en même temps, c'était un discours radical. Et je vous assure, quand on relit les textes de cette époque-là, c'est parfois impressionnant, tellement le discours est révolutionnaire. Les séquestrations de cadres sont un moyen d'action parmi d'autres, hein, auxquels la CFDT ne répugne pas. Elle a dissous sa fédération de fonctionnaires parce que celle-ci avait signé un accord salarial en 72. C'est qu'en 72, on était dans la logique des contrats de progrès. C'était l'époque Chaban-Delmas, la nouvelle société, avec son conseiller, Jacques Delors, qui avait promu cette idée de contractualiser dans les entreprises publiques et dans la fonction publique. Il y a eu un contrat de progrès que la CFDT de l'énergie a signé à EDF, et elle a été désavouée par sa confédération, parce qu'elle avait signé un accord. La fédération des fonctionnaires, pareil, avait signé un accord salarial. La confédération a dissous sa fédération de fonctionnaires, parce qu'elle avait signé un accord. Vous voyez, les époques se suivent, hein, ça ne ressemble pas toujours. Mais il y a eu un autre changement en 70 qui a été peu perçu, qui était le changement des statuts de la CFDT. Il y a eu un débat statutaire au congrès de 70, bon, qui a pour attirer beaucoup l'attention, parce que la question du moment, ce n'était pas celle des statuts, mais qui a beaucoup transformé l'organisation interne. C'est-à-dire qu'elle s'est beaucoup plus appuyée autour de son centre qu'elle ne le faisait avant. Et progressivement, on va voir dans ces années-là, le débat ne va plus s'organiser entre les fédérations, les UD, etc. Elle va s'organiser autour de la Confédération. Et c'est les propositions que va faire la Confédération qui va... On sera d'accord ou on ne sera pas d'accord avec. Mais il n'y a plus cette élaboration qu'il y avait auparavant et cette espèce de dialectique entre les positions des différents champs professionnels ou les unions départementales, et ça va poser des problèmes dans le débat interne dans la période suivante. Donc la période suivante, donc, finissons avec ces années 70 quand même, le congrès de 73, la banderole qui est au-dessus de la tribune dit « les luttes sont le moteur de la transformation sociale ». Donc ça situe bien la volonté, et en plus, rappelons-nous, c'est la période du programme commun de la gauche. La CFDT se méfie beaucoup de cette gauche, ce qu'elle appelle la vieille gauche, hein, qui est une gauche centralisatrice, étatiste. Là où elle appuyait sur l'autogestion, sur la mobilisation des travailleurs, elle se méfie beaucoup de ce modèle-là, dans lequel évidemment elle voit la CGT étant l'archétype, donc le démarquage du soviétisme. L'autogestion, c'est aussi ça, c'est le refus d'un socialisme qui vient d'en haut. C'est un socialiste qui vient d'en bas, qui vient de l'implication des travailleurs et pas du tout de l'État. Et la CFDT, à cette époque-là, épouse non seulement les luttes ouvrières, mais toutes les luttes qui se développent dans le champ sociétal. Les mouvements de femmes pour la liberté de l'avortement, de la contraception, la CFDT est dedans. La lutte des lycéens contre la loi Debray, la CFDT est à fond dedans. La lutte du Larzac contre l'extension du camp militaire, la CFDT est dedans. Elle est sur tous les terrains que Touraine, Alain Touraine, le sociologue, a défini comme ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux. Donc la CFDT est dedans et elle considère que c'est une ressource pour le syndicalisme que de s'impliquer dans toutes ces luttes qui ne sont pas directement des luttes du monde du travail, mais qui contribuent à une conscientisation des travailleurs, à leur prise de conscience et donc à leur mobilisation. C'est aussi l'époque où, dans un livre qu'il a écrit avec Jacques Julliard, qui s'appelle « La CFDT d'aujourd'hui », Edmond Maire dit que du centriste modéré au trotskiste, tout le monde a sa place dans la CFDT. Donc c'est un appel assez large à la mobilisation de tout, y compris l'extrême-gauche, de tout ce qui pouvait recevoir l'héritage de mai 68. Pourquoi l'appel au centriste modéré ? Parce qu'à cette époque-là, il faut bien voir que la CFDT n'est pas entièrement composée de gens de gauche, radicaux, etc. En 69, à l'élection présidentielle, il y a moins d'un tiers des membres de la CFDT qui ont voté pour un candidat de gauche. Il y a un tiers majoritaire qui a voté pour Poher. Alors, il faut dire que Poher avait été président de la Fédération CFTC des Finances en 1945. Mais enfin, ce n'est pas la seule raison. C'est que fondamentalement, l'assise de la CFDT, qui était quand même CFTC peu de temps auparavant, restait quand même un secteur d'opinion plutôt démocrate chrétien. Et quand vous regardez la carte d'influence de la CFDT jusqu'à assez tard, vous y retrouvez quand même les réalités profondes du pays. Je me souviens, quand je suis arrivé dans mon premier labo de recherche, là où c'est Vipof à Sciences Po, je vois dans le couloir une grande carte, comme on faisait avant qu'il y ait les ordinateurs partout. On faisait de la cartographie politique. Et en la voyant de loin, comme ça, je me dis, tiens, ça doit être le résultat des élections prud'homales, qui venaient d'avoir lieu peu de temps avant, et ça doit être le score de la CFDT aux élections prud'homales. Je connais un peu cette carte, quand même. Bon, c'est mon métier. Bon. Et puis, en me rapprochant, je vois que c'est pas du tout ça. C'était une carte politique assez ancienne, qui était le résultat des élections cantonales de 1962, le vote MRP. Donc le vote des Républicains populaires, le vote démocrate chrétien. Bon, vous savez, vous pouvez superposer les deux cartes, ça marche. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et encore en partie aujourd'hui, l'influence de la CFDT se marque beaucoup dans les pays à tradition catholique. Les Pays de Loire, l'Alsace, la Bretagne sont ces régions de force. Et ces régions de faiblesse sont au contraire l'arc massif central, l'arc méditerranéen, le sud-ouest, toutes ces régions où la tradition catholique est moins manifeste. Et même quand on regarde à l'intérieur d'une région, par exemple sur l'Auvergne, vous voyez que la CFDT était particulièrement influente en Haute-Loire, pays catholique devant l'Éternel, et beaucoup moins dans le Puy-de-Dôme, qui est au contraire une région beaucoup plus laïque et même anti-religieuse. Donc on a quand même, on voit bien que c'est la trame culturelle du pays est encore là. Et alors j'y reviendrai en conclusion, mais il faudrait quand même que je songe à conclure, sur les continuités et les ruptures. Donc cette période des années 70 est quand même pleine d'ambiguïté, même dans le conflit LIP, pendant que l'équipe syndicale dit « on produit, on vend, on se paye », la Fédération de la métallurgie cherche un repreneur industriel. Ah oui, parce qu'on sait très bien que l'îlot de socialisme autogestionnaire, c'est bien dans la mythologie de l'époque, c'est porteur, mais en même temps, derrière, il y a des emplois à consolider, il y a un système bancaire, il faut qu'ils viennent, etc. Donc on a... Et puis 74 aussi va montrer les ambiguïtés, parce que 74, c'est la défaite électorale de justesse, mais le Parti socialiste qui s'élargit aux assises pour le socialisme fin 1974, en septembre 1974. Et là, la CFDT est partie prenante de l'élargissement du Parti socialiste. Ça sera la fameuse troisième composante qui viendra élargir. C'est l'époque où Rocard emmène du PSU quelques troupes vers le Parti socialiste. Et il rentre par le courant Mauroy, d'ailleurs, dans le Parti socialiste. Et la CFDT soutient, enfin une majorité de la CFDT, pas tout le monde, notamment les tenants de la stratégie autonome, récusent cette approche-là. Par contre, tous les tenants de la stratégie commune sont partisans d'une entrée dans le Parti socialiste. Et on évoque à l'époque une volonté néo-travailliste de la part de la direction de la CFDT, c'est-à-dire l'idée d'utiliser un parti comme relais de sa propre conception du changement social. Ça ne marchera pas, parce que le Parti socialiste de Mitterrand, il ne se laisse pas manier par quelques cathos de gauche comme ça. Mais en tout cas, à cette époque-là, on vit un petit peu cette stratégie-là. Enfin, il se dit qu'il y a une volonté d'OPA, des cédétistes, de ce qu'on appellera plus tard la deuxième gauche, sur la première, sur la gauche étatiste et centralisatrice. Alors là, 77, c'est un tournant. Tiens, j'ai pas... Ça va accélérer, remarquez la conclusion. Mon imprimante ne devait plus avoir de papier. Après 77, on voit une théorisation de la situation tout à fait différente. C'est-à-dire que la CFDT perçoit, avant les autres, qu'on est dans une situation de crise durable. Et que dans cette situation de crise durable, le rapport de force sociale change significativement. C'est-à-dire que les luttes exemplaires, les luttes conquérantes, qui étaient encore celles qui étaient portées jusqu'en 73-74, se transforment en luttes défensives. Et on commence à voir Rateau, 77, etc., les luttes contre les plans de licenciement, qu'à l'époque on n'appelle pas encore des plans sociaux. On dit bien, c'est des plans de licenciement. Donc elle perçoit la dureté des temps à venir et dit qu'on n'est pas dans une crise de courte durée. On n'est pas dans un petit cycle, on est dans une crise profonde. La CFDT a été la première organisation à dire et percevoir la difficulté de la crise. Le deuxième facteur, c'est l'échec renouvelé de la gauche aux élections et cette idée assez communément avancée que la gauche ne gagnera jamais. Pour une raison simple, c'est que le Parti communiste à l'époque est la force principale de la gauche, que la gauche ne peut gagner que si le Parti socialiste dépasse les 20-25%, et qu'à partir du moment où le Parti socialiste serait devant lui, le Parti communiste ferait tout pour empêcher une victoire de la gauche. Alors, c'était un scénario qu'on évoquait, qui n'était pas absurde, parce que c'est un peu ce qu'avait fait le Parti communiste en 78, d'ailleurs, au moment des élections. Mais dès 76-77, on voit le Parti communiste commencer à grincer des dents face à des élections partielles où son recul commence à être significatif. Et effectivement, on voit le Parti socialiste se faire un peu la santé sur le dos du PC. Donc, cette idée que l'union de la gauche avait vécue, et qu'elle ne pourrait pas sortir victorieuse des élections, modifie sensiblement la stratégie, et notamment des tenants de la stratégie commune, qui voient là le partenaire s'échapper. Donc la logique devient une logique assez pragmatique, qui est de dire il faut cesser, et là c'est très explicite, il faut cesser de fonder la transformation sociale sur un changement qui viendrait du politique. Il faut tenter, avec nos moyens syndicaux, c'est pour ça qu'on a appelé ça du recentrage. Alors, le terme était polémique parce que c'est apparu comme un recentrage politique. On avait été très à gauche, donc on se recentre. C'est pour ça d'ailleurs que la Confédération avait choisi après resyndicalisation. Mais en même temps, c'était ce qu'elle voulait, c'était un recentrage sur le social, sortir du politique et retrouver une logique plus syndicale. Et une logique plus syndicale, c'est une logique qui passe par la négociation, qui passe par le contrat avec les employeurs. Et la CFDT, bon, ça a été dit plus tard dans un bouquin qui est sorti en 82 qui s'appelait « La deuxième gauche », qui a été d'ailleurs très accompagné par la CFDT, qui évoque une rencontre secrète, enfin secrète jusqu'à publication du livre, mais elle avait été effectivement tenue secrète jusque-là, entre la direction de la CFDT et le CNPF de l'époque, la CFDT disant très explicitement, proposant un deal aux employeurs, en leur disant « bon, nous, on laisse de côté l'autogestion, tous ces machins ». Ce qu'on veut, c'est trouver des accords consolidés dans la crise et opérés par la voie contractuelle. Le patronat a regardé ça avec un peu de surprise, évidemment, a dénié, enfin, a pas voulu rentrer dans une logique de ce type-là, mais en tout cas, il y avait ce changement de stratégie avait un côté réaliste, entre guillemets, vu les contraintes de l'époque. Le problème, c'est que cette stratégie a été proposée à un Conseil national, fin 77, à travers ce qu'on a appelé le rapport Moreau, Jacques Moreau qui était secrétaire confédéral, et le rapport a été sèchement battu. C'est-à-dire que les organisations ont vu tomber ça sans trop comprendre, et donc ont refusé une stratégie pareille. Mais la Confédération étant têtue, elle est revenue à... remis l'œuvre sur le chantier, a fini par remporter une courte majorité. Et à partir de ce moment-là, le débat interne à la CFDT a commencé à se tendre énormément. À la fois une élaboration qui semblait se faire en vase clos, entre dirigeants confédéraux. Pierre Rosanvallon tenait beaucoup la plume à cette époque-là. Il était secrétaire confédéral de la CFDT. Donc il a accompagné ce mouvement intellectuel un peu pour repenser la stratégie. Alors la CFDT, du coup, se recommande du réformisme. Enfin, c'est une notion qui ne veut pas dire grand-chose. Et en tout cas, pendant ces années-là, elle reste quand même liée aux mouvements sociaux. En 82, il y a encore un bouquin d'Edmond Maire qui parle de la ressource que les syndicats tirent des mouvements sociaux. Et vous savez que la CFDT a beaucoup soutenu Solidarność en Pologne, hein, le grand syndicat, mais qui était un syndicat polonais. Solidarność, c'était toute la société contre le pouvoir communiste, hein, donc c'était bien plus qu'un syndicat. Et la CFDT soutenait cette dimension-là, ça lui allait bien, quoi. C'est-à-dire que c'était un creuset d'opposition de la société civile contre l'État, hein, pour reprendre cette façon de présenter les choses. Donc c'est une première phase du recentrage qui va de 78 à 83-84. Où là, c'est une période de grande confusion, puisque je vous ai dit, la stratégie du recentrage est adoptée sous hypothèse que la gauche ne gagnera jamais les élections, mais manque de peau, enfin, si on peut dire, elle gagne en 81, ça modifie tous les schémas. Bon, la CFDT l'avait pas vu venir, c'était pas la seule, hein, entre nous, c'était un peu la divine surprise aussi. Et elle, au moment où elle veut sortir du politique, elle est complètement absorbée par la constitution du gouvernement Mauroy, c'est-à-dire que les socialistes eux-mêmes ont été surpris d'arriver là, leurs dossiers sociaux n'étaient pas très fournis, et donc ils ont été puisés là où il y avait du savoir, et du savoir il était dans les syndicats. Donc ils ont pompé allègrement dans les troupes de la CFDT pour garnir les cabinets des ministères, l'Élysée même, etc. Donc au moment où elle choisit sa stratégie de sortie du politique, elle est entièrement absorbée dans le politique. Au moment où elle choisit la voie de la négociation, le patronat ne se dit pas intéressé. Bon. Et puis pour arranger encore les choses, c'est le moment où la CGT fait son grand tournant de la fin des années 70, c'est-à-dire un tournant qu'on peut appeler sectaire pour aller vite, mais enfin disons que le tournant que les deux organisations ont pris chacun de leur côté n'ont pas arrangé les choses. Rupture de l'unité d'action totale. Dans les années 70, elle était conflictuelle, mais elle existait. Il y avait ce qu'on appelait un dialogue idéologique entre les deux organisations. En 79, tout est rompu. Les ponts sont rompus, ils n'ont repris que récemment. Donc on est dans un climat de rapport de force tout à fait négatif, et la CFDT cherche une voie, et là la stratégie commune joue à nouveau, puisque l'opportunité politique se présente, et la direction confédérale cherche des deals avec, alors non plus le patronat qui n'en veut pas, mais avec le pouvoir politique, et l'échange salaire contre emploi. Et c'est l'époque où la CFDT apparaît comme au fond partie prenante de la stratégie gouvernementale, notamment au moment du tournant de la rigueur. C'est-à-dire qu'au moment du tournant de la rigueur, la direction de la CFDT dit « bah non, on ne peut pas continuer à faire des promesses, à faire des changements, etc., qui ne sont pas financés. » Et en plus, qui mettent en péril la situation de la France en Europe. Parce qu'il y a une grande continuité dans tout ça, c'est l'attachement de la CFDT à l'Europe. Donc, elle se bat pour empêcher la sortie du système monétaire européen en 83. Et puis elle essaye de construire un échange. Elle accepte la modération salariale en contrepartie. Il y a des contreparties quand même, hein. Ils demandent une politique de l'emploi. Bon, malheureusement, la politique de l'emploi s'est passée de 2 à 3 millions de chômeurs en un an et demi. Donc le résultat était un fiasco. Et du coup, en 84-85, dès la nomination du gouvernement Fabius, la CFDT retire ses billes. Elle se désintéressera du champ politique à partir de 85. Et c'est là qu'il y a un deuxième recentrage qui se met en place, qui est l'abandon de la scène nationale et le tournant vers l'Europe. Et pourquoi le tournant vers l'Europe est possible? Parce que Jacques Delors vient d'être nommé président de la Commission en 84, qu'il a un programme de relance de l'Europe, et que la CFDT va tourner ses regards et ses espoirs vers un changement qui viendra de l'Europe et plus de la scène politique française. En même temps, elle se détache des mouvements sociaux. Ça apparaîtra manifestement justement au début de l'année 86 avec le mouvement étudiant contre la loi de Vaquet, où les syndicats appellent aux manifestations, et puis la CFDT joue un rôle un peu d'intercesseur avec le gouvernement Chirac à l'époque, et on est sous la première cohabitation, et où vous savez que dans la nuit, il y a des manifestations, il y a un jeune étudiant, Malik Houssekine, qui est tué par la police, là, par les brigades de voltigeurs, et le mouvement étudiant, la coordination étudiante, appelle à une manifestation après, même après le retrait d'ailleurs de la loi de Vaquet. La CFDT se prononce contre cette manifestation, appelle ses militants à ne pas y aller. En pure perte, les militants de la CFDT, à cette époque-là, ont encore la culture de la protestation, ils y vont. Mais là, on sent qu'il y a... Là va commencer une posture nouvelle de la CFDT vis-à-vis de tous ces mouvements sociaux, qu'elle va juger, qu'elle va condamner, parce qu'elle juge qu'ils ne sont pas du tout sur une logique négociatrice. Alors, elle va condamner le DAL, elle va condamner les mouvements des sangs, etc. Elle va s'en tenir très à l'extérieur, parce qu'elle considère qu'ils participent d'une culture protestataire qui freine le progrès d'un mouvement qui rechercherait à construire des compromis. C'est au nom du réformisme qu'elle rejette ces mouvements-là. Je ne vous dis pas les prises de position au moment de la création d'Attaque, évidemment, parce que Attaque, ce n'est pas négociable. Donc à partir du moment où tel mouvement... Et elle s'est fâchée même avec les mouvements féministes de l'époque, ce qui était quand même un vrai tournant, parce qu'elle avait quand même épousé ces luttes-là, et beaucoup de gens dans le mouvement féministe le savaient, avaient été de ce mouvement, de le proche de la CFDT, pendant très longtemps. Et progressivement, on a vu au fil du temps, évidemment, le point culminant, c'est avec l'arrivée de Nicole Notta au début des années 90, où là, la CFDT tourne le dos aux mobilisations sociales, s'hyper-institutionnalise et définit son syndicalisme d'une manière assez nouvelle. C'est-à-dire qu'elle porte l'accent sur la négociation, mais alors qu'elle ne s'était pas tout à fait inscrite dans le premier recentrage, mais en tout cas, elle abandonne la mobilisation collective et elle tourne entièrement sa stratégie vers les accords, non seulement la négociation, mais aussi la signature d'accords. Elle le fait au nom du réformisme, mais il y a du monde sous la bannière réformiste. FO s'est toujours qualifié de réformiste, l'UNSA, qui est née en 93, se qualifie de réformiste, la CFTC aussi. Bon. Donc comment se distinguer? Eh bien, on distingue, moi c'est ce que j'ai appelé l'hyper-réformisme, c'est-à-dire on continue à signer quand les autres s'arrêtent. Et c'est un peu polémique de dire ça, mais quand on regarde bien le développement de la stratégie jusqu'en 2003, jusqu'à la réforme des retraites, eh bien on a une organisation qui pense qu'elle nourrira le contractuel avec la signature. Alors je conclue par... Je schématisé, on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est apparemment on a le sentiment, quand on regarde ces deux périodes successivement, d'un balancier qui part de manière très radicale dans les années 70 et qui revient de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à un radicalisme, d'un côté, on voit un espèce de modérantisme radical qui lui fait face. On peut se dire d'ailleurs qu'avec un peu de chance, le balancier retombera un peu. Bon, ça, c'est de la politique fiction, on verra. Mais en tout cas, on doit s'interroger sur les continuités et les ruptures dans tout ça. Où est-ce qu'elles sont? Parce qu'il y a des ruptures manifestes, je l'ai dit, sur la question des femmes, la question de la conception de la société, etc. La CFDT a quand même tourné une page en 64 et après, et notamment avec 68 et les années 70. Et ça, c'est des acquis. La CFDT ne reviendra pas là-dessus. Elle continue à défendre l'égalité professionnelle, etc. Donc des thématiques qui ne sont pas... qui ne sont pas dans la tradition catholique. En même temps, derrière ces ruptures, qu'est-ce qu'il y a de continu? On voit des continuités. L'Europe, par exemple, il y a toujours eu un attachement à l'Europe. Il y a une continuité forte. Et il y en a une, à mon sens, qui est la question de l'État. Et qui est, d'une certaine façon, inscrite. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le plan de la CFTC, qui est l'évocation du principe de subsidiarité, que parfois, d'ailleurs, la CFDT évoque elle aussi. Et puis, cette question d'une méfiance consubstantiel à l'égard de l'État, et même la thématique de l'autogestion peut se lire comme ça. Et d'ailleurs, un ancien dirigeant de la CFDT, André Janson, qui avait présenté le rapport sur le socialisme au congrès de 70, le dit dans un enregistrement qui est parfois diffusé dans les sessions de formation de la CFDT. Il dit, au fond, l'autogestion, c'était la version moderne du principe de subsidiarité. Et on peut le lire comme ça. C'est-à-dire que la permanence, au fond, de la CFDT, à travers toute cette histoire du syndicalisme chrétien, c'est une certaine méfiance à l'égard de l'État. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle prône le contractuel contre la loi, etc., et parfois, et qu'elle s'appuie sur l'Europe aussi, beaucoup sur l'Europe, pour prendre en tenaille les décisions étatiques françaises. Donc il y a quand même des continuités. Bon, aujourd'hui, on est dans une phase qui appelle peut-être correction de sa part. Enfin, on se demande si avec 2003... et ce qui lui est arrivé sur les retraites, c'est-à-dire un blocage de son développement, elle avait quand même reconstruit un petit peu son tissu d'adhérents, elle a perdu, vous le savez, elle dit elle-même avoir perdu 60 000 adhérents dans l'histoire de la réforme des retraites, et depuis, surtout, elle n'arrive plus à retrouver un souffle de recrutement. Donc on sent qu'il y a un espèce de flottement stratégique en ce moment à la CFDT, elle est prise dans un système d'alliance qu'elle n'a pas choisi, parce que pas se voir négocier avec Solidaire la FSU et la CGT, c'était pas exactement la stratégie de Nicole Notta. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, la CFDT a pratiqué un isolement choisi pendant des années. Aujourd'hui, elle peut plus le faire. Donc, il y a peut-être un... Mais il faut pas négliger derrière tout ça quand même le potentiel de questions, et de questions pas toutes idiotes, que la CFDT a lancé à certains moments au syndicalisme français. Et notamment sur cette question de l'État, parce que... On peut considérer aussi qu'il y a une dépendance exagérée en France, y compris du mouvement syndical, parce qu'après tout, la question de l'émancipation, telle qu'il a été posé dans la tradition, ne faisait pas forcément de l'État le refuge de toutes les aspirations. Il y a une dépendance à l'égard de l'État qui est très forte dans le mouvement syndical. C'est normal dans les périodes de déréglementation libérale. L'État est plus protecteur que le grand marché, c'est l'évidence, mais en même temps... Les idéaux émancipateurs doivent certainement intégrer mieux qu'ils ne le font cette question du rapport à l'État. Et sur ce plan, la CFDT a peut-être apporté des réponses pas très réjouissantes, mais en tout cas, elle a posé les bonnes questions. Et je crois que c'est encore une grande organisation du mouvement syndical. Elle a peut-être un potentiel d'évolution, même si aujourd'hui on ne voit pas très bien les lignes du débat interne. Il n'y en a plus. Elle a perdu une grande partie de sa diversité au fil des départs. Et surtout, vous savez que dans cette dernière période, des années 80-90, elle a poursuivi le mouvement de fragmentation, puisqu'à partir de 88, elle a commencé à se séparer de ceux qui devenaient incompatibles avec la nouvelle orientation. En 88, l'exclusion, suspension, tout ce qu'on voudra, des militants de l'Île-de-France, des PTT, qui sont trouvés à l'extérieur de la CFDT, ont constitué les premiers syndicats sud, qui se sont reproduits à d'autres endroits. Les Sud, c'est pour l'essentiel des sorties de la CFDT. Hein, des gens qui sont partis. C'est pas que ça, mais c'est pour l'essentiel. Le grand mouvement, en tout cas, enfin, grand mouvement, le mouvement de création des Sud, c'est pas encore une tornade dans le champ syndical. Mais c'est un mouvement qui vient de décomposition de la CFDT, du fait de la prégnance croissante de ce nouveau cours adopté dans les années 90 et qui devenait de plus en plus incompatible avec des lignes syndicales qui préexistaient, qui étaient nées et s'étaient développées dans la CFDT des années 70. C'est pour ça que quand les observateurs disent on a le nouveau syndicalisme en parlant de Solidaire, par exemple, moi je dis toujours non, ce sont des nouveaux syndicats. Mais ce n'est pas un nouveau syndicalisme. Ce syndicalisme-là, avant, il vivait à l'intérieur de la CFDT. Il s'en est extériorisé. Ils n'ont pas choisi, d'ailleurs. Ils ont été mis dehors. Les premiers, au moins. Après, les départs ont été choisis. Mais en tout cas, c'est un syndicalisme qui s'est retrouvé dans... Mais c'est en grande partie une certaine continuation des stratégies radicales qui étaient nées dans la CFDT des années 70. Mais en tout cas, ça a concouru, cette évolution de la CFDT a concouru à la fragmentation supplémentaire du mouvement syndical, et vous voyez qu'à la différence d'autres pays où le syndicalisme chrétien s'est souvent rapproché du syndicalisme laïque, voire fondu dedans. J'ai évoqué les Pays-Bas, par exemple, le syndicat catholique a fusionné avec le syndicat social-démocrate dans les années 70. En Allemagne, il y avait un syndicalisme chrétien puissant avant 1933, en 1945, 1949, quand on a reconstruit les syndicats allemands, ça a été un syndicalisme unitaire. En France, on n'a pas du tout ça. On a eu la fragmentation que j'ai évoquée la dernière fois du syndicalisme laïque, socialiste ou communiste, et une fragmentation parallèle du syndicalisme chrétien. Et c'est ce qui aboutit à un arc syndical français qui est aussi fourni en organisation. C'est qu'on n'a à aucun moment, jusqu'à présent, discerné les éléments de rapprochement. On a dans les deux traditions, dans les deux matrices productrices de syndicalisme, des dynamiques de fragmentation, jamais de dynamique de regroupement. Peut-être qu'avec les nouveaux critères, ça va venir. Mais en tout cas, on est encore dans cette situation-là. Et puis je vais m'arrêter là parce que...